par mon sens, les dangers voilà. sont tellement énormes. Et
je crois que je vais le poser là.
Il est où le micro?
Je pense que c'est ça.
Ok.
Oui, puis c'est ce qu'on disait avec fin à la fin, une espèce de logique aussi
démocratique. Et la concurrence interindividuelle, interlabo et du facilité. Ça commence. Okay. Et à mon avis, ça dérape la rancune. Il y a plein de gens qui se parlent plus.
Oui, ça c'est. C'est vrai, les drames
immenses, on a plein de gens qui ne savent plus. Les effets de la concurrence interindividuelle, c'est terrible.
Je pense que c'est beaucoup plus fort en sciences humaines sociales.
C'est possible parce qu'on a l'habitude quand même de travailler de manière un peu dispersée.
Plus individualisée.
Bien entendu. Il y a des gens qui, maintenant, les choses se font en douce, ne se rendent pas publiques, on ne les présente pas, les gens ne font pas d'erreur papier avant de les soumettre, etc. Non, mais c'est épouvantable.
Les dossiers pour le reste se font
en douce.
On en est là certains.
Voilà, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Non, c'est. Moi je suis assez inquiet pour la suite.
C'est pareil que les
questions. Moi je suis très inquiet. Alors évidemment, vu que je n'ai plus 40 ans, malheureusement, j'ai un matelas, mais ce sont 40 ans, quand même, depuis les choses en main et de ce que je vais utiliser pour.
Parce que les du grand emprunt ou de la loi sur les universités
la loi sur les universités, la mise en concurrence généralisée.
L'application,
et l'évaluation. Et l'évaluationnite est délirante.
Et puis les sciences extraordinaires, les gardes, les corps universitaires.
Tout à fait.
Comme si.
Tout à fait.
Absolument. Ensuite, il y a les collègues qui se barrent dès qu'ils peuvent partir. Hein. Là, il y a plein de collègues, 60 ans pile, ou là, cette année.
Ah oui,
j'ai
dû plonger.
60 ans et quelques mois, écœurés, ils s'en vont, même s'ils n'ont pas leur quota. Hein. Enfin, leur finance.
Oui, alors en général, les collègues passionnés, ils cherchent toujours à.
Bien sûr, à durer. Bien sûr. C'est vous qui décidez.
Fabien, malheureusement,
il est je vérifie juste ce qu'il y a. Ça clignote.
Tu es sûr que.
Ça clignote.
C'est pas le téléphone rose, mais l'appareil photo rose. Il ne va pas nous.
Josiane n'est pas là.
Exactement. Merci d'être là. Donc, je voudrais d'abord excuser Fabien Grandjean, qui est celui qui organise ce séminaire portant sur de quoi la critique est-elle le nom. Fabien a été opéré, une opération de relative routine mercredi. Il devait sortir mercredi soir en pleine forme. Les médecins lui avaient caché qu'il faudrait qu'il reste encore au calme pendant 72 heures. Donc il regrette beaucoup de ne pouvoir être parmi nous, mais il a un certificat médical. Donc il m'a demandé de prendre sa place. Alors, évidemment, c'est impossible de prendre sa place, mais je vais m'y employer. Donc voilà. Donc vous savez que ce séminaire se déroule déjà depuis quelques semaines. Donc Fabien l'avait construit en deux parties, hein, ce cycle de séminaire. La première partie était destinée à réfléchir de façon épistémologique sur les approches critiques. Donc le dernier séminaire a clos ce premier cycle du séminaire avec l'intervention aujourd'hui de Roland Pfefferkorn. Commence une nouvelle phase de ce séminaire pendant laquelle on va se pencher sur des thématiques importantes de l'approche critique. Et la première thématique qui a été choisie par Fabien, c'est bien entendu celle des inégalités sociales, des inégalités sociales qui se donnent à voir souvent comme étant naturelles. Or, l'approche critique, comme on va le voir aujourd'hui, hein, déconstruit cette idée de la naturalité des inégalités sociales. Elle montre comment ces inégalités sont construites dans le cadre de rapports de domination. Donc, Roland Pfefferkorn, ici, est particulièrement amène, hein, c'est un privilège de le recevoir, il est particulièrement amène d'évoquer cette question, hein, puisqu'il étudie depuis plus de 15 ans donc la question des inégalités sociales. Il étudie le rôle cumulatif de ces inégalités sociales. Il montre comment ces inégalités sociales font système. On lui doit un certain nombre de publications. Vous voulez qu'on les fasse circuler dès maintenant ou après, tout à l'heure, après. Donc, et donc c'était sans doute la personne la plus indiquée pour introduire ce thème ô combien important dans la théorie critique des inégalités. Donc je lui cède la parole pour un propos d'une petite heure, hein, et pour après une séance de questions-réponses. Roland, c'est à vous.
Je remercie bien sûr Fabien Grandjean de m'avoir proposé de venir intervenir chez vous. J'ai changé légèrement le titre, je m'en expliquerai tout de suite. Le titre annoncé, c'est Inégalités rapports sociaux. Je lui avais donné ce titre parce que c'est le titre précisément de cet ouvrage, Inégalités rapports sociaux, rapports de classe, rapports de sexe, qui a été publié à la dispute en 2007. Et je vais lui substituer un titre plus restreint pour une raison assez simple, c'est que j'ai donné une conférence récemment à la Sorbonne fin janvier qui est disponible sur le net. Il suffit de taper mon nom, qui est compliqué, mais vous l'avez tous retenu. En même temps, vous allez sur vidéo, hein, Google Vidéo, vous tapez mon nom et vous tomberez sur cette vidéo enregistrée à la Sorbonne. Dans ce cadre, j'étais intervenu sur le thème rapports sociaux de sexe et articulation des rapports sociaux. Donc je me suis dit que sur la thématique des rapports sociaux, parce que c'est cette thématique-là que je traite précisément dans cette conférence, les personnes intéressées pourront à l'occasion, s'ils en ont envie, regarder cette vidéo. C'est une conférence un peu plus d'une heure avec ensuite questions-réponses. Donc si vous en avez envie, vous allez voir là. Donc aujourd'hui, j'ai intitulé mon intervention « Inégalité et classe sociale ». Donc vous voyez, c'est un peu plus limitatif. Je ne vais donc pas m'intéresser aux autres rapports sociaux. Je m'intéresserai de manière centrale aux rapports de classe. Et le sous-titre de mon intervention, c'est « Quel discours sociologique ? Quel discours sociologique peut-on produire par rapport à cette question ?» Avant de démarrer mon intervention, deux mots sur les quelques bouquins que j'ai amenés et deux mots aussi sur la manière dont je suis rentré dans cette thématique. Donc d'abord, il faut que je précise que j'ai commencé à travailler sur la question des inégalités sociales avec un collègue et ami, Alain Bire, et on a publié ensemble en 95 un ouvrage qui s'intitule « Déchiffrer les inégalités » qui avait eu à l'époque un certain écho dans la mesure où il allait à l'encontre, quand il est sorti, d'un discours dominant à l'époque qui consistait à dire que pas du tout, les inégalités n'augmentent pas, c'était le discours de l'INSEE. Et en nous appuyant sur la statistique publique, sur l'ensemble de la statistique publique, à l'époque c'était difficile d'y avoir accès parce que c'était de la littérature grise, il n'y avait pas Internet comme aujourd'hui qui permet d'avoir accès à toute une série de sites institutionnels. On avait donc réuni un certain nombre de matériaux
On avait évidemment aussi critiqué la façon dont ces matériaux statistiques avaient été produits, et on avait essayé de rassembler un certain nombre d'éléments en ne se contentant pas de traiter uniquement des revenus et éventuellement des patrimoines, mais en essayant d'aborder l'ensemble des grands thèmes. Et on a pu mettre en évidence, précisément en faisant ce travail sur les éléments de la statistique publique, que les inégalités sociales avaient tendance de manière significative à augmenter de nouveau depuis la fin des années 70, début des années 80. Donc ça, c'était un premier travail. Je précise aussi que ce travail, on l'avait démarré, grosso modo, il y a une vingtaine d'années. À l'époque, quand on travaillait sur ce thème, bien évidemment pas financé, ça va de soi, quand on avait travaillé sur ce thème, y compris les collègues se moquaient doucement de nous sur le thème classique, mais c'est un sujet pas porteur, mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est idéologique, c'est pas scientifique, etc. Passons là-dessus. Alors récemment, donc on a fait, au départ notre projet, je précise tout de suite, était de traiter des inégalités sociales au sens large du terme. Quand je dis au sens large du terme, c'est précisément pas seulement les inégalités entre groupes sociaux, dans le sens de, entre classes sociales, mais aussi des inégalités, par exemple, hommes-femmes, des inégalités entre des catégories de population, en différenciant notamment ceux qui sont venus d'ailleurs et ceux qui sont ici depuis plus longtemps, en différenciant éventuellement aussi en fonction des espaces qui sont occupés, par exemple ville-campagne, les différents quartiers des grandes villes, et également en prenant en compte les différenciations en termes de génération ou de classe d'âge. Donc ça, c'était un projet très vaste qu'on n'a pas réussi à mener à bout, loin de là, mais dès le départ, notre objectif était de ne pas se cantonner aux seules inégalités sociales au sens strict, c'est-à-dire aux inégalités entre classes sociales. Alors on a poursuivi ce projet, donc déchiffrer les inégalités portait sur les inégalités sociales dans ce sens-là, sens strict entre catégorie sociale, classe sociale. Le deuxième bouquin qu'on avait sorti, c'était en 96, on l'avait intitulé « Homme-femme, l'introuvable égalité », visait un peu avec dans la même perspective à également utiliser un certain nombre de matériaux de la statistique publique, mais aussi beaucoup plus que dans le précédent bouquin des matériaux ethnographiques, et d'essayer de faire là aussi un état des lieux et de montrer comment l'évolution s'est faite. On a, dans ce deuxième domaine, disons, présenté un tableau un peu plus contrasté que dans le premier domaine. Mais je ne développe pas ici. Plus récemment, ce qui m'a intéressé, c'est davantage, je dirais, le discours théorique ou pseudo-théorique qui est tenu sur ces questions. C'est ce qui m'a amené donc, à publier ce travail-là. Donc le bouquin pourra circuler. Inégalité, rapports sociaux, rapports de classe, rapports de sexe. Quels sont les trois objectifs du bouquin? Il s'agit d'une part de revenir, et je vais longuement parler de cela aujourd'hui, de revenir sur l'éclipse des classes dans le discours sociologique et dans le discours politique et dans le discours médiatique pendant les années 80, 90, voire encore jusqu'à aujourd'hui, et de montrer un petit peu quels sont les discours de substitution ou les discours de contournement qui ont été produits pendant cette période. Des discours qui consistent en résumé à dire où les classes sociales, ce n'est pas des catégories pertinentes ou intéressantes, voire même chez certains, les classes sociales, ça n'existe pas, c'est des pures constructions intellectuelles de sociologues qui ont l'esprit mal tourné. Et je reviendrai aussi sur les discours de substitution tout à l'heure dans mon propos. Et le deuxième objectif était d'accorder un peu d'importance à la sociologie critique féministe, qui a été produite précisément dans cette période, des années 70, 80, 90, et la deuxième partie que j'ai intitulée « L'émergence du genre » vise à rendre compte de ces avancées dans ce domaine-là. Et dans la conclusion, le troisième objectif, c'est en fait un programme, un programme assez classique finalement, c'est de mettre l'accent sur l'articulation, la nécessaire articulation des rapports sociaux. C'est-à-dire, non pas tenir un discours que certains ont tenu. Aujourd'hui, les analyses en termes de classe ne sont plus pertinentes. Ce qui est pertinent, c'est de voir un petit peu les oppositions culturelles, les oppositions ou les rapports entre hommes et femmes, ou entre ville et campagne, ou entre espaces dans les villes. Vous voyez ce type de discours qu'on a beaucoup entendu, mais c'est au contraire insister sur le fait qu'on ne peut pas passer à la trappe aucun des rapports sociaux fondamentaux, et en particulier pas les rapports de classe et les rapports de sexe. Donc ça peut circuler. Alors, je fais passer également un numéro de Raison Présente qui a été publié l'année dernière, qui s'intitule précisément « Articuler les rapports sociaux, classe, sexe, race ». Donc, dans ce numéro, il y a plusieurs articles, certains plus théoriques, d'autres qui partent de terrain empirique, et l'objectif est là aussi de promouvoir une approche en termes d'articulation de rapports sociaux. Le quatrième petit bouquin, là c'est un repère, le système des inégalités. Une partie de mon propos, la première partie de mon propos, repose notamment sur ce petit bouquin. Ce bouquin, c'est un petit peu une synthèse du travail qu'on avait produit antérieurement, pour aller vite. Actualisé, évidemment. Et là, je viens de sortir, c'est en librairie depuis 2 jours, un nouveau petit livre qui s'intitule « Genre et rapports sociaux de sexe », qui a été publié aux éditions Page 2 à Lausanne, qui est dans une collection de poche, donc c'est même moins cher que la collection Repère. Là, l'objectif est de présenter un petit peu une cartographie ou une introduction à l'ensemble des théories critiques matérialistes qui ont été développées dans le champ du féminisme. Donc vous le trouverez assez facilement, probablement en librairie. Donc ça peut circuler. Alors aujourd'hui, quel est mon propos ? L'objectif donc est d'une part de revenir rapidement sur la montée des inégalités sociales au cours des, grosso modo, des 30 dernières années, montée des inégalités sociales qu'on peut mesurer de différentes manières, je vous donnerai quelques indicateurs tout à l'heure, et qui concerne pas seulement la France, ça concerne absolument l'ensemble des pays capitalistes, que ce soit au nord ou au sud. Alors évidemment, avec des nuances et des variantes, et des nuances temporelles également. J'essaierai de montrer comment, à partir d'une analyse systématique des inégalités sociales, on peut parfaitement légitimer, contrairement au discours qu'on a le plus entendu au cours des dernières décennies, on peut parfaitement légitimer et montrer la pertinence d'une approche en termes de classe sociale. Dans un deuxième temps, par la suite, je reviendrai quand même rapidement sur les discours de substitution qu'on a entendus pendant ces décennies. Les discours de substitution, je rappelle les grands thèmes, vous les avez tous entendus, les approches en termes de moyennisation, les approches en termes d'individualisation, les approches en termes d'exclusion, notamment. J'y reviendrai plus en détail. Alors donc, l'accroissement des inégalités sociales qu'on peut mettre en évidence très facilement au cours des 3 dernières décennies, et ça c'est le grand paradoxe, cet accroissement des inégalités sociales a été accompagné par la montée, en tout cas en termes de discours audibles, je ne dis pas en termes de nombre de personnes qui tenaient ce discours, a été accompagné de la montée d'un discours sur la société qui a eu tendance à occulter précisément la polarisation croissante due à la montée des inégalités sociales et en particulier à évacuer le discours de classe. Évacuer le discours de classe, l'évacuer dans le registre des sciences sociales, qui nous intéresse ici plus particulièrement, mais évacuer le discours de classe aussi dans le registre politique. Les sociologues, comme les hommes politiques, ont d'une certaine manière rivalisé d'ingéniosité pour inventer des mots, des expressions savantes, depuis le début des années 80, pour caractériser la structure de la société française et ses transformations. Mais les clivages sociaux croissants qui la traversent n'ont pas tardé à invalider ces discours de substitution, et je suis sûr que quand je vais présenter tout à l'heure certains d'entre eux, on pourra se demander comment c'est possible que ces discours aient seulement pu être développés au moment où ils se sont développés, et comment ils ont pu avoir l'écho qu'ils ont eu et qu'ils ont toujours. J'en parlerai dans le détail. D'autant plus qu'une bonne partie de ces discours de substitution n'ont rigoureusement aucune prise avec la réalité. sont largement invalidés par les faits. Mais il niait obstinément la réalité de classe de la société française, qui n'avait en aucun cas disparu. Tout au plus, ça c'est clair, cette structure de classe s'est-elle transformée, complexifiée ? Ça, il n'y a même aucun doute là-dessus. Alors on peut mesurer les inégalités et les sociales en s'intéressant notamment aux revenus, mais on peut s'intéresser aussi au patrimoine détenu, on peut s'intéresser éventuellement à l'usage qui peut être fait de ces revenus en termes de consommation individuelle, mais aussi en termes de consommation collective, par exemple les dépenses en termes de services publics, santé, éducation notamment, mais également on peut s'intéresser aux usages sociaux du temps des uns et des autres, on peut s'intéresser au temps à vivre, parce que là aussi c'est peu connu, dans la même période, les écarts par exemple en termes d'espérance de vie ont eu tendance à augmenter significativement entre catégories sociales. Certes, l'espérance de vie a augmenté pour tout le monde, mais elle a surtout augmenté pour ceux qui étaient déjà le mieux lotis. Je ne développe pas davantage sur ce point. Juste un point concernant les revenus, parce qu'il faut avoir quelques repères grosso modo fiables. On peut mesurer l'évolution des revenus de différentes manières, et il y a des controverses, notamment chez les économistes, à ce sujet. Mais si on s'appuie, par exemple dans le cas de la France, sur la comptabilité nationale, on peut mettre en évidence, de manière assez claire, des changements en termes structurels de la répartition des revenus. Notamment si on oppose deux grandes catégories de revenus. D'un côté, les revenus salariaux, les revenus du travail, et de l'autre côté, les revenus du capital, sous différentes formes. Bien entendu, il y a des revenus un peu intermédiaires, hein, les bénéfices industriels, commerciaux, agricoles, relevant à la fois des deux, notamment quand il s'agit, par exemple, de commerçants, d'artisans ou d'agriculteurs sans salariés, qui restent quand même les plus nombreux, y compris aujourd'hui. Donc si je m'intéresse uniquement à la répartition du revenu entre salaire et profit globaux, je précise, salaire, quelles que soient les formes précises, prises, on ne va pas distinguer différentes formes. Et pareil pour les profits, donc pour les revenus du capital, forme classique qu'on connaît, bien entendu, c'est les dividendes. Bien entendu, les dividendes distribués aux actionnaires, mais il n'y a pas que ça. Il y a les plus-values réalisées lors de ventes d'actions. C'est autre chose. Mais il y a aussi, tout simplement, les loyers perçus par les propriétaires d'immeubles. Et il y a les intérêts perçus pour ceux qui ont des gros paquets d'épargne sous différentes formes, là aussi. Je ne développe pas. Je ne vais pas multiplier les chiffres. Je prendrai simplement trois dates pour avoir quelques indicateurs. Si je prends le début des années 50 et je regarde la répartition entre salaire et profit, et si je compare avec la situation qu'on peut observer à la fin des années 70, entre les deux périodes, la part des salaires a légèrement augmenté, d'environ, si je sépare maintenant la période des années 50 jusqu'en 68, et si je prends la période suivante, grosso modo, les salaires augmentent de 4 à 5 points. D'accord ? Et bien entendu, les profits, que c'est l'autre partie, diminuent de 4 à 5 points. Ensuite, à partir de la fin des années 80, là aussi, des dates ont leur importance, on peut prendre l'année 78-18 comme référence, on peut prendre l'année 82 comme référence, on a la même tendance. À partir du début des années 80, on va prendre ça, jusqu'au début des années 90, on ne va pas très loin, un peu plus de 10 ans, on a la part des salaires qui chute de pas loin de 10 points. Donc en une décennie, à peine plus d'une décennie, la part des salaires chute de plus de 10 points. Évidemment, la contrepartie, c'est que la part des profits, elle, explose de plus de 10 points. Donc vous avez vu... Je voulais insister sur ce point. Certes, il y a eu une modification importante pendant la décennie précédente, principalement due à mai 68, et l'augmentation importante du SMIC et ses répercussions sur l'ensemble des salaires, mais ça a été le mouvement inverse, un mouvement beaucoup plus fort. Et si on compare jusqu'à aujourd'hui, les choses n'ont pas bougé. Alors il y a des petites variations, mais nous sommes aujourd'hui, grosso modo, à une répartition, une part des salaires qui est significativement plus faible que celle qu'elle n'était dans les années 50 ou dans les années 60. À peu près 5 points de moins. Je fais une comparaison comme ça, globale. Si je compare avec le début des années 80, c'est 10 points de moins. Alors, avec des nuances, parfois c'est plus important, parfois c'est moins important, on observe rigoureusement la même tendance dans l'ensemble des pays capitalistes, que ce soit au nord ou au sud. Parfois c'est plus fort, prenez le Mexique, là, ça a été beaucoup plus raide, beaucoup plus dur pour les salariés, parfois c'est moins fort, par exemple dans certains pays d'Europe du Nord. Mais dans beaucoup de pays, c'est très proche. Donc, si vous voulez, alors après, on peut gloser sur comment on mesure, etc., etc., mais il y a quand même un accord global sur ces grandes tendances. Bien entendu, on a là l'origine aussi de la crise financière, parce que ces profits supplémentaires qui se sont accumulés dans quelques mains, ben, ces profits supplémentaires n'ont pas trouvé à s'investir, contrairement au discours dominant, mais ces profits supplémentaires se sont placés, des placements spéculatifs, dans l'immobilier, dans les produits financiers, etc. Et puis ça a généré, bien entendu, les bulles financières, les bulles immobilières qui ont pété. Et puis, voilà, l'origine, c'est ça, pour aller vite. Bon, je ne vais pas développer davantage. Je voudrais maintenant insister sur les effets de cette modification de la répartition des revenus dans d'autres domaines. Les effets, on les rencontre, par exemple, sur la consommation dans son ensemble. La consommation de biens et de services spécifiques, plus ou moins fortement, selon le cas. Les effets sur le patrimoine et les possibilités de se loger correctement ont été considérables. D'autant plus, et c'est un des éléments, que le prix du logement a fortement augmenté dans la période. Là aussi, ça a été analysé. Dans le petit livre « Déchiffrer les inégalités », on consacre un chapitre à cette question, de manière spécifique, on prend ça comme exemple, mais ça a été analysé. On sait parfaitement bien comment on en est arrivé à ça. C'est dû aussi à la politique qui a été suivie dans le pays. On n'a pas exactement la même évolution dans les pays voisins. Par exemple, en Allemagne, l'évolution a été significativement moindre. En termes, je veux parler de la hausse du coût relatif du logement. Évidemment, les effets sont accentué dans certaines zones par rapport à d'autres. Le coût du logement a beaucoup plus augmenté à Paris qu'à Nancy, par exemple. Les effets également au niveau du financement des services publics. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'insister sur la crise de la santé, sur la crise de l'éducation, qui tend à s'accentuer, parce que précisément, il y a aujourd'hui une tendance très forte à diminuer, la part relative du budget consacré à ces secteurs. Alors le paradoxe, c'est que dans la période où on observe ce mouvement, le discours qui était très largement dominant, avec des nuances, dans les sciences sociales, le discours de classe, les concepts de classe, concepts de rapport de classe, qui faisaient partie du béaba de la sociologie, du béaba des sciences sociales, ben ce discours de classe a été fortement remis en cause à partir de la fin des années 70. Ce béaba des sciences sociales, le discours de classe, en tout cas, dominait très largement en France, en Grande-Bretagne ou en Italie, pour prendre ces trois pays. C'était un peu plus complexe, je peux en parler, aux États-Unis et en Allemagne. Aux États-Unis, en fait, il y avait deux types de discours. On avait d'une part des sociologues qui tenaient un discours de classe, c'était des sociologues qui, en général, n'étaient pas en vue. Ils enseignaient dans des universités considérées comme de seconde zone, notamment toute une série d'auteurs peu connus en France qui ont comme caractéristique d'articuler rapport de classe et rapport de race. Également des auteurs plus connus comme Wright Mills, par exemple, qui utilisait le concept de classe de manière tout à fait claire, mais ce discours-là n'était pas forcément le discours le plus entendu. Le discours le plus entendu, c'était plutôt le discours sur la fin des classes, discours qui a été tenu par exemple par Nisbet, sociologue conservateur, qui est notamment l'auteur d'un grand livre, La tradition sociologique, qui est tout à fait stimulant, mais ça a été développé également par tout le courant stratificationniste autour de Warner, qui, à partir d'une enquête ethnographique dans une petite ville, ont généralisé les résultats de cette petite ville à l'ensemble des États-Unis. Évidemment, dans la petite ville, on n'avait pas les représentants de la grande bourgeoisie. Dans la petite ville, on n'avait pas non plus les fractions les plus démunies de la société états-unienne. Et simplement avec une vision très simpliste de strates, où rien ne différencierait fondamentalement une strate d'une autre. Il y aurait simplement des différences de degrés selon le critère qu'on va prendre en compte, que ce critère soit par exemple le revenu ou par exemple le prestige accordé à une profession donnée. Je ne développe pas. En Allemagne, juste pour en dire un mot aussi, il faut bien voir que le discours de classe qui était tenu dans la sociologie, certes, il y avait des discours très différents, mais le discours de classe qui était tenu, y compris par Max Weber, par exemple, à sa manière, ce discours de classe a disparu à partir de l'arrivée au pouvoir des nazis en 1933. Les sociologues ont fait partie de la grande charrette des exilés, mais la sociologie allemande a continué à se développer. Sous quelle forme ? Sous la forme d'une sociologie nazie, qui évidemment n'est pas enseignée, même de manière critique, dans les universités françaises. Mais en Allemagne, il y a beaucoup d'ouvrages sur l'histoire de la sociologie telle qu'elle s'est développée pendant la période nazie, et la sociologie nazie a repris tout simplement les visions du Parti national socialiste allemand, à savoir que la grande opposition qui traverse la société, c'est l'opposition entre la Volksgemeinschaft, c'est-à-dire le peuple d'un point de vue racialisé, hein, le peuple allemand, les Aryens, et les ennemis de la Volksgemeinschaft. Les ennemis de la Volksgemeinschaft, il y a les juifs notamment, mais pas seulement. Est-ce que c'est... Et donc ce qu'il faut voir, c'est qu'en 1945, avec la défaite nazie, c'est le discours conservateur américain, notamment le discours stratificationniste, et d'une façon générale la sociologie conservatrice américaine, qui a été adoptée par les sociologues allemands, qui étaient des gens qui avaient fait carrière sous le nazisme. Et les gens qui, dans les années 50, vont en Allemagne, vont reprendre ce discours conservateur et cette vision conservatrice de la société, en termes de strate sociale, d'unité du peuple, la cohésion, enfin, c'est un thème aussi qui est développé dans la sociologie française, c'est très ancien. Mais cette thématique va être massivement présente, d'autant plus que le retour des sociologues critiques, je pense par exemple à Adorno, ne se traduit pas vraiment de manière significative dans le champ des sciences sociales en Allemagne. Quelques îlots. Donc l'Allemagne, les États-Unis, on ne peut pas dire que dans les années 50, 60, 70, le discours de classe en sociologie ait été dominant. On ne peut pas dire ça. La situation était complexe, mais en France, en Grande-Bretagne, en Italie, avec certes des définitions différentes, certes des approches très différentes, par exemple en France, de Halbwachs, donc élève de Durkheim, jusqu'à Bourdieu, dans des perspectives assez différentes de la perspective marxienne, on a, chez tout le monde, un discours de classe. Je ne développe pas davantage. Alors, quel est l'intérêt de procéder à une analyse des inégalités ? Qu'est-ce que l'analyse des inégalités sociales nous permet de dire sur la société française contemporaine ? En gros, et là j'annonce mes subdivisions de la première partie, on peut dire que la société française reste fondamentalement une société segmentée. Ça va être le premier point. Une société hiérarchisée, deuxième point. Et une société conflictuelle, troisième point. Et ces trois caractéristiques réunies, segmentation, hiérarchisation et conflictualité, nous permettent de plaider en faveur d'une lecture de la société française en particulier, mais aussi les autres, en termes de classe sociale. Alors, je vais développer ces trois points. Alors, tout d'abord, contrairement aux hypothèses très largement diffusées pendant des décennies, dès les années 60, de la progressive uniformisation des sociétés contemporaines. Ça, c'était la tarte à la crème d'une certaine sociologie dans les années 60. Progressive uniformisation des sociétés contemporaines. L'étude des inégalités. La mise en perspective de l'ensemble des inégalités dans tous les secteurs permet de montrer de manière absolument indiscutable qu'au sein d'une société donnée, notamment au sein de la société française, ben les différents individus qu'on y trouve ne se ressemblent pas, ne possèdent pas les mêmes attributs sociaux. Et pour être plus précis, on peut facilement mettre en évidence l'existence de groupements d'individus. J'utilise volontairement une terminologie très générale. On peut mettre en évidence l'existence de groupements d'individus partageant des manières de vivre, des manières de faire, des manières de penser, qui peuvent être identiques, similaires ou équivalentes, qui vont les différencier d'autres groupements du même genre. C'est ce qu'une observation, même superficielle, permet de noter tout simplement en se déplaçant dans les différents quartiers d'une grande ville ou dans les différentes zones d'une grande agglomération comme la région parisienne. Pour ne prendre que l'exemple des pratiques de consommation, celles qui sont censées précisément avoir subi le plus nettement l'effet de l'uniformisation de la consommation marchande, absolument toutes les études sociologiques à leur sujet montrent que non seulement les membres des différentes catégories socioprofessionnelles, par exemple, ne consomment pas les mêmes choses, c'est-à-dire pas les mêmes biens et services, mais encore qu'elles ne les consomment pas de la même manière. Autrement dit, leurs pratiques de consommation, tout comme leurs objets de consommation, sont essentiellement différents. Deux exemples. Même si, par exemple, la diffusion de la télévision s'est généralisée, ou presque, la manière de consommer la télévision est radicalement différente d'un milieu social à un autre. Ou pour prendre l'autre exemple classique, même si la voiture s'est largement diffusée, il n'en reste pas moins que les uns ont des voitures d'une certaine gamme et les autres d'une autre gamme. Les uns ont des voitures neuves régulièrement renouvelées, les autres ont plutôt des voitures d'occasion. Et on sait, les études sur la sécurité routière le montrent, que les risques, par exemple, de mortalité ne sont rigoureusement pas les mêmes en cas d'accident. Je ne développe pas. Je prends un autre exemple dans le pays voisin. En Grande-Bretagne, par exemple, il y a deux secteurs au niveau de la consommation qui se sont considérablement développés depuis 20 ans. Et là aussi, un voyage en Grande-Bretagne, notamment dans les petites villes, est tout à fait instructif. Aller à Londres et dans les petites villes, explosion des charity shops. Vous allez dans les petites villes, vous avez parfois plus de charity shops que de magasins normaux, avec tout ce qui va avec, et explosion du commerce de luxe. Je ne développe pas davantage, j'insiste sur ce point parce que c'est précisément la thématique de la société de consommation qui avait été développée dès les années 60, qui était censée rendre compte de la progressive uniformisation des sociétés. Bien évidemment, je pourrais prendre toute une série d'autres exemples. Alors, à quoi tiennent ces différentes pratiques de consommation? Bien entendu, une des réponses, c'est les inégalités de niveau de vie. C'est-à-dire, en définitive, aux inégalités de pouvoir d'achat ou de revenus disponibles, dont j'ai rappelé tout à l'heure qu'elles se sont fortement accrues depuis le début des années 80. Mais elles tiennent aussi, elles sont aussi à mettre en rapport avec les différentes normes de consommation. En effet, à niveau de vie identique, à pouvoir d'achat identique, les membres des différentes catégories sociales n'effectuent pas les mêmes choix de consommation, ne privilégient pas les mêmes besoins, ne manifestent pas les mêmes priorités en termes d'aspiration. Autrement dit, les pratiques de consommation sont conduites et organisées en fonction d'échelles de valeurs différentes. et les conduites peuvent varier très fortement, par ailleurs, au sein d'une même catégorie de revenus. Alors, ces conduites sociales différenciées permettent de comprendre aussi la diversité des rapports à l'institution scolaire, la diversité des rapports au travail, la diversité des rapports au monde social auquel on appartient, et également des mondes sociaux à l'égard desquels on se sent irréductiblement étranger. La diversité de ces conduites sociales va permettre alors à certains auteurs de suggérer une plus grande individualisation, alors qu'il s'agit bel et bien, je voudrais insister sur ce point, de conduites sociales. Des conduites sociales relativement typifiables à partir des processus de socialisation primaire, secondaire, des parcours d'existence, etc. Et je pourrais par ailleurs multiplier des remarques analogues en examinant le logement, la santé, la scolarisation, l'usage social différencié du temps hors travail, etc. En tout cas, dans le cas de la France, c'est ce qu'on a montré dans le système des inégalités qu'on avait montré précédemment dans Déchiffrer les inégalités, dans le cas de la France, on peut, à partir notamment d'un grand nombre d'enquêtes statistiques, mais aussi en s'appuyant sur des enquêtes ethnographiques et en utilisant dans le cadre des enquêtes statistiques la nomenclature des catégories socio-professionnelles, qui est extrêmement utile dans ce sens-là, on peut montrer qu'il y a des différenciations internes à la société extrêmement fortes et que notre société est bel et bien une société segmentée, c'est-à-dire constituée de groupements significativement différenciés. Je ne sais pas si j'étais assez clair. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est sur la hiérarchisation. Parce que la société française n'est pas seulement segmentée en groupements nettement différenciés, mais ces groupements sont hiérarchisés. En effet, ces groupements sont hiérarchisés parce qu'ils sont inégalement dotés en ressources. Inégalement dotés en ressources de toute nature. Bien entendu, quand je parle de ressources ici, j'entends ce concept de ressources dans un sens extensif, incluant d'une part les ressources matérielles, je vais y revenir, mais d'autre part aussi les ressources sociales et politiques. Alors qu'est-ce que j'entends par ressources matérielles ? Bien évidemment, vous avez pensé au flux de revenus que j'ai déjà mentionné, mais vous avez pensé aussi au stock de patrimoine. Mais il ne faut pas oublier tout le reste qui va avec. Les espaces à occuper, la situation, par exemple, du logement, le temps à vivre, j'ai fait allusion à ça tout à l'heure, tout ça, ça fait partie des ressources matérielles. Donc il n'y a pas que les ressources monétaires en termes de flux de revenus et de stock de patrimoine. Mais il ne faut pas oublier les ressources sociales et politiques. Qu'est-ce que j'entends par là ? Là aussi, plein de choses. Il y a d'une part, par exemple, la diversité des possibilités de contact, de relations, de rencontres, la richesse des réseaux de socialisation, richesse extrêmement variable des réseaux de socialisation. Par exemple, le fait d'appartenir à un réseau de socialisation permettant des contacts diversifiés avec des gens qui disposent eux-mêmes de ressources, par exemple pour trouver un emploi, par exemple pour trouver un logement, ben c'est pas rien. Évidemment, ces réseaux existent dans l'ensemble des groupements sociaux, mais la richesse des ressources disponibles n'est pas tout à fait la même. Avoir dans ces réseaux familiaux des gens qui occupent des situations de pouvoir, trouver un emploi, pour avoir une information, ben c'est pas la même chose que d'avoir dans ses proches ou dans ses réseaux des gens qui disposent des mêmes capacités qu'on a soi-même. Ça ne permet pas d'élargir les ressources qui sont accessibles. Je ne développe pas. Mais bien sûr, on peut prendre en compte aussi le fait que les individus appartiennent à des associations de toute nature, bien sûr, syndicats, organisations politique, mais aussi et surtout organisations professionnelles, communautés religieuses, etc., etc. Ce sont toujours des ressources. On peut faire des remarques à ce propos aussi par rapport à ce que ça peut impliquer en termes de possibilité de défendre ses droits, de possibilité de, comment dire, de défendre des positions institutionnelles, etc. Mais il y a enfin un troisième type de ressources qu'il ne faut pas oublier, et là, c'est vrai qu'on doit à Bourdieu d'avoir insisté sur cet aspect, ce sont les ressources symboliques. Alors, volontairement, vous avez pu remarquer que je n'utilise pas la métaphore bourdieusienne de capital, parce qu'elle a, à mon sens, énormément de défauts, et l'un des premiers défauts est précisément de passer à la trappe le concept central marxien de capital, qui est un rapport social. Et c'est prendre le terme capital dans sa définition la plus vulgaire, comme précisément un stock de ressources. Et je préfère, pour ma part, utiliser le concept de ressources. Par ailleurs, deuxième remarque que je ferai après avoir dit qu'on doit à Bourdieu l'insistance mise sur le symbolique, et c'est important, mais en même temps, la sociologie bourdieusienne a eu tendance à minimiser l'ensemble des dimensions matérielles. L'ensemble des dimensions matérielles, et minimiser notamment la question du travail à la base, précisément, de la production des richesses matérielles. Par exemple, acte de la recherche en sciences sociales, on va attendre le numéro 120 ou à peu près pour qu'on ait un premier numéro qui a un dossier portant sur le travail. S'il y a eu quelques articles auparavant, notamment dû à Michel Pialoux, c'est parce que Michel Pialoux travaillait sur Peugeot, mais le travail n'a jamais été une préoccupation centrale de la sociologie bourdieusienne. C'est à mon avis, ça fait partie des faiblesses, mais insistons maintenant sur les ressources symboliques. Les ressources symboliques, nous sommes dans une université, les diplômes scolaires universitaires constituent des indicateurs significatifs de telles ressources. Mais attention, c'est uniquement des indicateurs. Ces ressources symboliques renvoient, à mon sens, beaucoup plus largement à la maîtrise des savoirs. Si le diplôme, c'est de la monnaie de singe, un titre, mais qu'il n'y a pas derrière des savoirs, ça ne vaut pas grand-chose. Donc, pour moi, les ressources symboliques, ça renvoie à la maîtrise des savoirs, ça renvoie à la maîtrise des références culturelles, ça renvoie à la capacité à se donner une image cohérente du monde, une image cohérente de soi, une image cohérente des autres, et ça renvoie aussi et surtout, me semble-t-il, à la capacité de proposer cette image à d'autres, voire même, et c'est ce qui se passe pour les dominants du monde dans lequel nous vivons, la capacité de la bourgeoisie à proposer une image du monde à travers les médias qui sont contrôlés, à travers précisément les discours qui sont matraqués en permanence. On a là un groupement social qui a des capacités énormes à imposer une vision du monde, alors qu'à l'inverse, imposer des images du monde alternatives est beaucoup plus difficile. Nous sommes donc en conséquence en présence non seulement de sociétés segmentées, mais de sociétés fortement hiérarchisées. Et il n'y a aucun domaine de l'activité sociale qui ne soit marqué par de profondes inégalités entre catégories sociales, inégalités souvent anciennes, quelquefois plus récentes. Je précise ici, je fais une parenthèse, j'en ai parlé au début de mon intervention, je me limite dans cette séance aux inégalités de classe. Bien entendu, il faudrait prendre en compte l'ensemble des inégalités entre catégories en prenant en compte les autres rapports sociaux, rapports de sexe, rapports de racisation, rapports de génération, etc. Donc ce n'est pas que je l'oublie, mais on ne peut pas parler de tout en même temps. Et j'insiste, ces inégalités forment système. Ces inégalités forment système dans le sens où les inégalités se renforcent réciproquement. Elles provoquent précisément des cumuls d'avantages ou des cumuls de handicaps. L'avantage sur un plan appelle en général l'avantage sur d'autres plans. Et inversement, le handicap dans un champ suscite en général des handicaps dans d'autres champs. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de donner beaucoup d'exemples à ce propos. Et la résultante générale de cette dynamique, c'est une forte polarisation entre la base et le sommet de la hiérarchie sociale, D'autant plus que ces inégalités tendent à se reproduire de génération en génération. L'égalité des chances, cette notion piège passe partout, j'y reviendrai. L'égalité des chances d'accès aux meilleurs postes, aux postes les plus prestigieux, aux postes les mieux payés, est en définitive un pur mythe. Quand on examine la mobilité sociale, par exemple intragénérationnelle en France, qu'est-ce qu'on constate ? C'est que ce qui domine, c'est bel et bien l'immobilité, et qu'en mobilité il y a, c'est mobilité sur des situations analogues, proches, en tout cas c'est des mobilités courtes, mobilité ascendante ou descendante par ailleurs. Je ne développe pas, c'est tout le chapitre 4 du système des inégalités qui circule est consacré à ce point. Ce qui importe, donc, ce n'est pas tant la persistance des inégalités entre les catégories sociales, ce n'est pas tant leur universalité, mais à mon sens, ce qui importe, c'est véritablement leur caractère systémique et les phénomènes consécutifs de cumul d'avantages au profit de certaines catégories et de cumul de handicaps au détriment d'autres catégories. Je pourrais évidemment longuement développer, je ne vais pas le faire maintenant, je voudrais avoir un peu de temps aussi tout à l'heure pour parler de l'histoire de substitution. Mais un mot encore pour parler rapidement de la conflictualité. La société française est une société segmentée, hiérarchisée, mais également une société conflictuelle. En effet, ces différenciations et hiérarchisations internes ne vont pas sans conflit. Ces conflits vont opposer les différents groupements, et pas seulement les classes, vont opposer différents groupements et vont provoquer des disputes, des oppositions, des rivalités, pour précisément, pour les uns, améliorer leur position relative, pour les autres, les conserver, voire les accroître encore davantage. Et nous sommes en présence, précisément, de sociétés conflictuelles, d'où des conflits collectifs qui ne tournent pas seulement, j'insiste, autour de l'appropriation de la richesse sociale, mais bien entendu, la question de l'appropriation de la richesse sociale est centrale. C'est des conflits autour des salaires, directs ou socialisés. Les conflits autour des retraites, ce sont les conflits autour des salaires socialisés. Et ça, c'était quand même assez extraordinaire, comment les groupes dominants d'une société mettent en place, en fait, des procédures pour dire les choses brutalement, couillonner les salariés plus jeunes, qui, quand ils vont arriver à l'âge de la retraite, vont se retrouver avec des retraites amputées, selon les cas, de 20, 25, 30, voire 50%. Tout simplement, il suffit de faire des calculs. Les victimes des réformes de retraite, ce ne sont pas évidemment les retraités d'aujourd'hui, ni même ceux qui vont partir à la retraite encore dans les toutes prochaines années, ça ne joue qu'à la marge. Ils vont perdre peut-être 10% du montant de leur retraite, s'ils ne travaillent pas plus longtemps. Par contre, les générations à venir vont perdre des montants considérables. Je ne développe pas. Mais les conflits ne portent pas uniquement sur ces questions-là. Les conflits portent aussi sur les normes de légitimation de l'ordre social. Précisément, toutes les joutes idéologiques entre conceptions du monde rival, qui peuvent se dérouler, certes, sur la scène académique, mais ce n'est plus la scène essentielle aujourd'hui, qui se déroule sur la scène médiatique, qui se déroulent sur la scène politique, sont tout à fait, scène culturelle aussi, sont tout à fait essentielles de ce point de vue. Parce qu'est-ce qui est en jeu ici ? C'est définir ce qui est juste, ce qui est injuste. Définir ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable. Définir ce qui est souhaitable, ce qui n'est pas souhaitable. Par exemple, c'est pas inintéressant, dans Déchiffrer les inégalités, on avait consacré plusieurs pages déjà à l'idée de mettre en place, au même titre qu'un SMIC, un revenu maximal acceptable, et on avait proposé des normes, ça remonte maintenant, il y a exactement 17 ans. Je suis assez content de voir que depuis quelques mois, ce thème apparaît publiquement, mais encore avec des marges complètement démentielles. Même Mélenchon prend des marges énormes quand on pense que quand on prend les salariés dans leur ensemble, à peu près 50% des salariés se situent à moins de 1,5 fois le SMIC. Et on nous parle d'écarts, mais qui vont de 1 à 50 ou de 1 à 20. Mais bien entendu, par ailleurs, il faut rappeler à ce propos que sous Reagan, au début, ça a été modifié sous Reagan, mais sous Reagan, des revenus de l'ordre de 10 fois l'équivalent des salaires de ceux d'en bas étaient taxés aux États-Unis, en termes sur les impôts sur le revenu, à 80%. Non mais c'est voir aussi à quel point il y a eu une victoire idéologique des dominants dans notre société pour légitimer le fait que les uns puissent être de plus en plus riches et en même temps faire étalage. De ce point de vue, l'actuel président et ses connivences, révélées par l'affaire Bettencourt, sont tout à fait exemplaires. Et également, la manière dont il a fêté sa précédente victoire. Donc, les conflits, ce n'est pas seulement des conflits autour de la répartition des richesses sociales, c'est vraiment des conflits également sur les normes de légitimation. Et je crois qu'il faut insister là-dessus. Un mot sur cette fameuse notion attrape-couillon d'égalité des chances. On ne parle plus d'égalité la plupart du temps, on parle d'égalité des chances. Mais l'égalité des chances, c'est quoi? C'est dire qu'il faudrait une égalité fictive des chances de chacun pour pouvoir occuper des positions inégales dans l'échelle sociale. En d'autres termes, la notion d'égalité des chances, dans un premier temps, légitime l'existence d'inégalités sociales. Simplement, ça nous dit il faut fictivement faire en sorte que tout le monde puisse avoir les mêmes chances d'occuper les barreaux les plus élevés de l'échelle sociale. Alors, comme je l'ai rappelé, c'est la reproduction sociale qui domine, mais par-dessus le marché, c'est du discours complètement fictif. Je ne développe pas. Donc cette notion d'égalité de chance, c'est un truc incroyable, c'est venu progressivement dans le discours médiatique, politique, via d'abord le terme d'inégalité des chances, mais appliqué dans la seule sphère éducative, et ensuite à travers le discours juridique. Je ne développe pas sur ce point. S'il y en a parmi vous qui sont intéressés, vous tapez « égalité des chances » et mon nom, vous tomberez sur deux articles qui sont disponibles sur le net, où je développe la critique de manière plus fine. En tout cas, nous sommes bel et bien toujours dans une société conflictuelle, et évidemment, les dominants, ça les embête beaucoup. Il préférerait que la situation soit acceptée avec un consentement maximal, et c'est la raison pour laquelle le terme de conflit est un terme qui dérange toujours. Le terme de lutte est un terme qui dérange. Le terme de combat est un terme qui dérange. Juste pour vous rappeler raconter une anecdote, je la raconte dans mon dernier bouquin, « L'inégalité rapports sociaux ». Il se trouve qu'il y a 10 ans, je vis à Strasbourg, je suis professeur à l'Université de Strasbourg, le Conseil de l'Europe m'invite pour donner la conférence annuelle le 8 mars sur le thème homme-femme. Et je leur donne mon accord, ils ne me demandent pas de titre de mon intervention, et 10 jours avant, ils me demandent le titre de mon intervention, et je leur donne comme titre « L'égalité homme-femme, un combat inachevé ». Par Internet. Le lendemain, j'ai un mail catastrophé de l'organisatrice. « Ah, monsieur, il y a un mot que vous ne pouvez pas utiliser dans votre titre, c'est le mot combat. Ça ne va pas. C'est vrai, le Conseil de l'Europe a une division cohésion sociale. Ce dont je vous parle, on n'en parle pas. » Et donc, ça m'a un peu énervé, mais donc j'ai répondu par une facétie. Je leur ai envoyé un nouveau titre, j'ai attendu un peu, je leur ai envoyé un nouveau titre, « L'égalité homme-femme ». Non plus un combat, mais une lutte inachevée. Et ça a été absolument terrible dans le grand amphi avec les hauts fonctionnaires du Conseil de l'Europe qui m'ont massacré parce que non seulement j'ai mis dans le titre, mais du coup, chaque paragraphe, j'ai scandé par c'est une lutte qui reste à mener, etc., etc. Et toutes les interventions, à la fin de mon intervention, c'était sur mon usage du mot lutte, quand même, ça ne se fait pas. Non, mais je ne plaisante pas. À ce propos, d'autres remarques que je voudrais faire, c'est l'ancienneté de l'occultation du conflit dans la sociologie française. Et là, je reviens à Durkheim et à la sociologie durkheimienne. Mais rappelez-vous, chez Durkheim, le conflit, ça relève du pathologique. Durkheim nous a fabriqué l'anomie. Parce que pour Durkheim, en divisant du travail social, l'idéal, c'est cette complémentarité. Il oublie l'inégalité, mais cette complémentarité, qu'elle fonctionne bien et que chacun accepte de rester à sa place. Et il y a le texte célèbre de Durkheim, quand il critique les syndicalistes, où il leur reproche justement de ne pas se rendre compte de tout ça. Que, voilà. Et les syndicalistes, bien entendu, prennent parti. Lui a théoriquement le point de vue de la science. Mais l'occultation du conflit, c'est quand même un des points centraux de la sociologie française quand elle a été fondée, l'occultation du conflit. Et c'est vrai qu'on doit à Alvax, malgré toutes ses limites, le fait d'avoir mis l'accent sur la classe ouvrière. Il y a quand même deux livres de Alvax qui parlent de classe ouvrière, au singulier, au pluriel quand il parle aussi des États-Unis, quand il compare la France et les États-Unis. Mais ce thème de l'occultation du conflit, on l'a également dans la sociologie allemande naissante. Parce que l'autre thème qu'utilise parallèlement Durkheim, donc Durkheim occulte le conflit, parle de cohésion sociale, il parle d'intégration, il parle de lien social, bien entendu pas de rapport social ou de rapports sociaux, parce que précisément le concept de rapport social, sa supériorité sur le concept de lien social, c'est de permettre de penser à la fois ce qui divise, ce qui oppose et ce qui rassemble et qui unit. Alors que le concept de lien social, pour moi ce n'est pas un concept, mais la notion molle de lien social, précisément, empêche de penser le conflit. C'est pour ça que cette notion, à mon sens, est à bannir. Et cette notion est présente chez Durkheim, dans la division du travail social, elle est présente également chez Tönnies. Tönnies, ce sociologue allemand, qui est l'auteur de Gemeinschaft und Gesellschaft, Communauté et Société, un livre qui n'est pas très intéressant, qui se résume en quelques minutes. En fait, il oppose la communauté à la société, en schématisant, il oppose le village idéalisé et Berlin. C'est ça qu'il y a derrière. Le village idéalisé, qui serait fait de liens sociaux, on ne s'oppose pas, où il y aurait de l'harmonie, et puis la métropole, qui, elle, est faite de conflits de toutes sortes, de dangers de toutes sortes, la métropole, le lieu de la perdition, etc. Ça, c'est Gemeinschaft und Gesellschaft. Il est intéressant de savoir qu'à l'époque hitlérienne, Tönnies, par ailleurs, n'était pas nazi, pas d'amalgame, mais à l'époque hitlérienne, les nazis ont réussi à trouver du papier pour une nouvelle édition de Gemeinschaft und Gesellschaft à la fin de l'année 43. C'est intéressant, les priorités. Mais bon, je ferme la parenthèse. Donc, société conflictuelle, même si le conflit est souvent occulté, notamment dans certains courants sociologiques. Donc, la représentation de la société française qu'autorise les résultats d'une analyse du système des inégalités est bien celle d'une société segmentée, hiérarchisée, conflictuelle. Les divisions, inégalités et conflits qui la traversent oppose non pas des individus, je voudrais insister sur ce point, en tant que tels, mais bel et bien des groupements d'individus partageant précisément une commune position dans la société. Cette position doit être appréhendée à la fois sur le plan objectif et sur le plan subjectif. J'ai peu développé, même pratiquement pas du tout, cette question. Il ne faut pas la négliger. Cette position commande leur possibilité inégale de s'approprier ou non, avoir, pouvoir et savoir, je ne développe pas, conduisant à une accumulation d'avantages à un pôle, à une accumulation de handicaps à l'autre pôle, processus sur la base desquels ces différents groupes entrent en lutte, précisément, les uns contre les autres, en s'organisant plus ou moins bien. Certains sont organisés en permanence. Là, les travaux des Pinsons, faut bien le dire, sont extrêmement précieux parce qu'ils nous montrent à quel point la bourgeoisie fonctionne collectivement, à quel point la bourgeoisie est organisée en permanence à tous les niveaux, que ce soit au niveau micro, méso ou macro-sociologique, et à quel point la bourgeoisie mène la lutte de classe en permanence et de manière dominante depuis quelques décennies. D'où les reculs de ceux qui se trouvent à l'autre pôle du spectre social. Et l'ensemble des arguments que j'ai présentés autorise, justifie et valide le recours au concept de classe, de rapport de classe et de lutte pour l'explication et la compréhension de la persistance, précisément, voire de l'accentuation des phénomènes de segmentation, de hiérarchisation et de conflictualité au sein de la société française actuelle, comme plus largement dans l'ensemble des sociétés contemporaines. Donc, la société française est bel et bien toujours une société de classe, une société dont les clivages ont même eu tendance à se durcir au cours des dernières décennies. Les remarques qui précèdent ne doivent pas pour autant conduire, je le répète une troisième fois, à minorer les autres rapports sociaux, rapports de sexe, de génération, de racisation, et se pose donc toujours en permanence la question de l'articulation entre ces différents rapports sociaux. Je suis passé assez vite là-dessus, mais je voulais commencer par là. Et je voudrais maintenant dire quelques mots des discours sociologiques de substitution, notamment des discours qui ont mis l'accent sur l'individualisation, la moyennisation et l'exclusion. Dire quelques mots de ces discours et dire évidemment quelques mots critiques de ces discours. Et bien sûr, il va falloir parler des mots et des expressions qui se sont imposés, en tout cas dans le discours public, dans le discours politique, dans le discours médiatique, mais aussi dans le discours sociologique, au cours des années 80-90 et au début du 21e siècle, et qui sont toujours largement présents, même s'ils sont largement contestés aussi depuis quelques années, et mon intervention en fait partie. Mais il n'en reste pas moins que ces discours de substitution sont toujours largement présents. Alors, une petite remarque préalable, ces discours de substitution ont pu se développer aussi en raison de certaines faiblesses du discours de classe antérieur. Le discours de classe tel qu'il a été développé dans les années 60-70 n'était pas un discours dénué de faiblesses. Quelques mots là-dessus. Le discours de classe antérieur était marqué à la fois par un certain ouvriérisme, j'en dirais deux mots, était marqué également, je dirais, par la chape stalinienne et post-stalinienne. J'en dirais deux mots aussi si vous le souhaitez. Par ailleurs, ce discours de classe antérieure était souvent un peu caricatural et avait notamment tendance à négliger totalement les autres rapports sociaux. Un mot sur l'ouvriérisme. Sans vouloir développer le thème de l'ouvriérisme au sein des organisations partisanes politiques, et notamment au sein du PCF, dans l'ensemble de la période qui va des années 30 jusqu'aux années 60, l'ouvriérisme et le mot ouvrier posent un certain nombre de problèmes. Et je vais vous indiquer en partie lesquels et les changements de la structure du monde des travailleurs a accentué ces problèmes. En effet, en France, pour parler de la classe d'en bas, la tradition consiste à parler de la classe ouvrière. Je me permets là de traduire un petit peu, de revenir au terme utilisé en anglais ou en allemand. En anglais, c'est « working class ». En allemand, c'est « Arbeiterklasse ». La traduction littérale, c'est « classe des travailleurs ». Alors, en quoi ça pose problème et quelles sont les limites? La classe des travailleurs, c'est plus large que « classe ouvrière ». Parce que « classe ouvrière », c'est mettre l'accent sur une composante de la classe, les ouvriers, qui certes est la composante majoritaire pendant toute une période, mais avec les transformations internes du monde salarial, la classe ouvrière progressivement est devenue une minorité du monde des travailleurs salariés. Je ne développe pas pour le moment. Par ailleurs, il y a eu toute une série d'opérations pendant la période qui va de la fin des années 70 jusqu'à aujourd'hui, opérations qui ont été menées systématiquement par certains organes de presse. Et là, je prends l'exemple du Monde, que j'ai étudié moi-même de manière précise. Le Monde, pendant toute cette période, a titré les articles des journalistes rendant compte, par exemple, des enquêtes de l'INSEE portant sur la CSP, catégorie socio-professionnelle ouvrier, en titrant systématiquement classe ouvrière. C'est-à-dire qu'on a rentré dans la tête de générations que classe ouvrière égale CSP ouvrier. Ça pose un vrai problème. Et l'opération a été menée systématiquement, vous pouvez vous amuser. Il se trouve qu'avant de passer à l'université, j'ai enseigné un certain nombre d'années en lycée des sciences économiques et sociales, et comme beaucoup d'autres de mes collègues, j'utilisais parfois des synthèses du Monde, rendant compte d'enquêtes de l'INSEE avec des élèves. Et le Monde a utilisé systématiquement, il continue à le faire, le vocable classe ouvrière pour parler de la CSP ouvrier. Vous voyez la réduction. Alors, pourquoi ce détour? Alors, en même temps, il y a l'ouvriérisme au niveau syndical politique du PCF qui a des visages différents selon les périodes. Mais là, il y a un vrai problème quand on veut procéder à une analyse en termes de classe sociale, parce que quelque part, on donnait des armes à certains simplificateurs qui, par la suite, vont nous tenir des discours sur la ou les classes moyennes et qui vont nous mettre les employés dans la classe moyenne et les ouvriers seuls la classe ouvrière. Pour nous montrer à quel point c'est une imbécilité, par rapport, il n'y a pas d'autre terme, par rapport au monde réel, ben quand on regarde les choses, avec qui les ouvriers sont-ils, vivent-ils, 80% des ouvriers, c'est des hommes, 80% des employés, ou à peu près, c'est des femmes, le type de couple, marié ou pas marié, le plus répandu dans ce pays, c'est des couples formés d'un ouvrier et d'une employée. C'est-à-dire que les employés, eux, vivent avec des ouvriers au masculin. Et on a des tourelles qui vont dire les employés font partie de la classe moyenne et les ouvriers de la classe ouvrière. Non, c'est de l'imbécilité. Je veux dire, faut en revenir à des choses assez élémentaires. Je ne développe pas sur ce point. Est-ce qu'on est au clair là-dessus? Voilà. Donc, alors les discours de substitution qui en même temps deviennent des discours de contournement. Quand je parle de discours de contournement, c'est en fait des discours qui permettent d'évacuer la question des classes sociales, qui permettent d'évacuer la question du rapport de classe, et discours de substitution parce que ces nouveaux discours, ils sont présentés comme tels, comme les nouveaux philosophes étaient aussi présentés comme tels, mais ces nouveaux discours vont se décliner en plusieurs variations qui vont arriver successivement. Alors je vais vous les présenter. Premier discours, c'est le discours qui met l'accent sur l'individualisation, alors au niveau théorique, sur l'individualisme méthodologique aussi, et qui met l'accent en même temps sur la moyennisation. Alors il y a deux livres qui, à mon sens, sont emblématiques en sociologie. C'est d'une part le Dictionnaire critique de sociologie publié par Boudon et Bourricot en 1982. Ce dictionnaire est quand même le premier dictionnaire de sociologie où il n'y a pas d'entrée à classe sociale. Extraordinaire. Ben oui, vu que les classes sociales, c'est une pure invention des sociologues, on peut très bien oublier le concept de classe sociale, on va oublier que Smith, Adam Smith, les physiocrates, les mercantilistes parlaient de classe sociale, Marx n'a pas inventé les classes sociales, mais les classes sociales disparaissent. Il y aura une entrée stratification, bien sûr. Et on va donner de la valeur à l'approche warnerienne en termes de Mitchell. Hein. Passons là-dessus. En 88, paraît un autre livre qui me semble encore plus emblématique, c'est le livre de Mandras, La seconde révolution française, 1965-1984, où Mandras nous explique doctement que nous sommes dans la phase de la moyennisation, que la grande nouveauté, c'est la moyennisation de la société française. Le livre paraît en 88. Je vous ai indiqué tout à l'heure la rupture de tendance de la fin des années 70, début des années 80. En France, il y a la parenthèse de l'année 81 et début des années 82. Mais la rupture de tendance, elle est déjà nette dans une série de domaines. Et en 88, il nous sort ça, et vous ouvrez aujourd'hui des manuels de lycée, sciences économiques et sociales, on enseigne à tous les élèves une absurdité. Je veux dire, il suffit qu'ils ouvrent les yeux dans le monde social dans lequel ils vivent sur la moyennisation de la société française, alors qu'il y a une polarisation croissante, vu l'accroissement des inégalités sociales. Alors, un mot par rapport à cette notion de moyennisation. Qu'est-ce qu'il nous dit Mandras ? Je pourrais vous donner des citations, je vais quand même vous en donner deux. Je prends ça au début de son livre, page 24. On voit clairement que les grandes structures sociales du 19e siècle s'écroulent. Quatre classes massives et antagonistes s'émiettent en une multitude de groupes qui gravitent autour d'une constellation centrale. La constellation centrale, c'est 80% de la société selon lui, et les quatre grandes classes se s'émiettent dans ces groupes qui sont autour. Donc, hein, vous voyez, la grande bourgeoisie et puis ce qu'on va appeler après les exclus. Touraine nous reprendra le même motif dans ses interventions médiatiques. Autre citation encore, parce que vous allez me dire je caricature, non, page 44, c'est chez Mandras toujours. En disparaissant, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, en disparaissant, bourgeois, paysans et prolétaires font disparaître en même temps un système de classe au sens fort du terme. C'est-à-dire d'une part, des univers de civilisation qui englobaient toute la vie, toute la personnalité et toutes les ambitions de ses membres, et d'autre part, des macro-groupes en lutte pour le pouvoir et la domination de la société globale. Donc il nous annonce, comme d'autres, à d'autres époques, la fin des classes. Alors, je me suis amusé, je raconte ça dans Inégalité rapports sociaux, à chercher la littérature sociologique, académique, qui annonce la fin des classes. Il y a des bouquins à la fin du 19e siècle, déjà. Alors, chacun date la fin des classes à un autre moment, bien sûr. Dans l'entre-deux-guerres, on en a tout plein. En Allemagne, aux États-Unis notamment. Après-guerre, on en a encore. Nice B, en 59, à nouveau. Et puis récemment, il y a un Australien qui a de nouveau, récemment, il y a une dizaine d'années, annoncé la fin des classes. Alors les classes, pour l'Australien, existaient jusqu'aux années 60. Pour les autres, c'était jusque dans l'entre-deux-guerres, etc., etc. Mais ce discours est un discours récurrent en sociologie, sur la fin des classes. Alors, la société, donc la grande classe moyenne, la grande constellation moyenne de Mandras, donc 80% de la société, c'est pas moi qui chiffre, c'est eux, hein, c'est Mandras, c'est Touraine et d'autres. Donc, vous voyez, c'est la classe moyenne, ou les classes moyennes, envisagées comme l'immense constellation centrale. Il n'y a plus de classe sociale, vu qu'il n'y a plus qu'une grande classe moyenne. Et évidemment, il y a quelques très riches, et puis il y a quelques exclus, quelques pauvres, des nouveaux pauvres. Hein. Alors, quel est le sens de l'expression classe moyenne ? Alors ici, il y a une autre arnaque. Ça fait partie de ces expressions qu'il faut vraiment interroger. C'est ancien. Halbach s'écrivait déjà de manière critique sur la notion de classe moyenne. Marx s'écrivait déjà de manière critique sur la notion de classe moyenne, parce que c'est une vieille notion. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, quand le terme est utilisé, classe moyenne ? En fait, aujourd'hui, c'est principalement utilisé en deux sens. Premier sens, je viens de vous le donner, c'est cette immense constellation centrale, hein, tout le monde ou presque ferait partie de la classe moyenne. Hein, Et un deuxième sens, qui est rigoureusement différent, qui est régulièrement utilisé aussi dans les médias, là, on parle de la classe moyenne de manière euphémisée pour désigner la classe supérieure. Ah, c'est la upper middle class. Mais oui, parce qu'on va quand même défendre les intérêts de la classe moyenne, on ne va pas augmenter la taxation sur les revenus. Même à des niveaux absolument invraisemblables, ce serait scandaleux de mettre un taux de prélèvement de 70 ou de 80%. La classe moyenne ne comprendrait pas. Et là, on désignera le 0,1% ou le 1% de la population. Vous voyez les deux sens. Et on joue alternativement sur les deux. Donc c'est le type même de notion qui empêche de penser. De même que la notion de lien social que j'ai rappelé tout à l'heure. Alors, il faut reconnaître que le terme de classe moyenne a été utilisé par certains auteurs dans un troisième sens. Je vais quand même vous le donner aussi, celui-ci. Mais en règle générale, il n'est pas utilisé en ce sens aujourd'hui, il est utilisé plutôt dans les deux sens que j'ai mentionnés. Le troisième sens, on le trouve par exemple chez Georg Simmel, à la fin du 19e, et là, ça désigne une classe tampon entre la bourgeoisie et le prolétariat. Mais là, la notion de classe moyenne recoupe grosso modo ce que plus traditionnellement un Poulantzas s'appelait la petite bourgeoisie, que ce soit l'ancienne ou la nouvelle. Vous voyez, ce n'est pas du tout la même chose. Alors, deuxième remarque que je voudrais faire à ce propos, par rapport à cette immense constellation centrale qui serait la classe moyenne. Quand vous rapprochez ça de ce que je vous ai dit avant par rapport au vocable classe ouvrière et classe des travailleurs, ben quand on raisonne en termes de classe des travailleurs, en fait, les 80%, c'est à peu près la classe des travailleurs. En fait. Ça change complètement la donne. Mais évidemment, subjectivement, ça a quelques petites conséquences. Quand on parle de classe moyenne, on n'a plus de lutte. Vous voyez, c'est pour ça que le choix des mots n'est pas totalement neutre. Et donc, il est nécessaire de déconstruire le discours pseudo-savant qui a été produit par les collègues pendant ces années-là, qui, pour moi, est un discours de contournement ou un discours de diversion, purement et simplement. Donc, la moyennisation d'une société apaisée, j'utilise volontairement le mot, là, c'est le terme qu'on va trouver chez Furet. Il fait partie des gens qui ont participé au tournant idéologique. La société apaisée, Nora utilise aussi le terme, Pierre Nora, la société enfin apaisée. Hein ? Et effectivement, la notion de classe moyenne, la moyennisation, société apaisée, une société qui en a enfin fini avec les grandes discordes nationales, pour utiliser leur terme, c'est chez Mandras, ça. L'objectif est quand même d'évacuer dans le discours le conflit, avec quand même comme fantasme que le conflit disparaisse de la réalité aussi. Et que la domination de classe soit consentie. Alors pour moi, l'histoire de la classe moyenne fait partie de ces grands pièges, la notion même de classe moyenne. Alors cela dit, le discours de la moyennisation n'a pas été tenu beaucoup au niveau du grand public parce qu'il n'a aucune prise. Ce n'est pas crédible. Donc ce discours sur la moyennisation, on l'a donné dans le monde académique. On le donne dans le monde de l'enseignement. Je vous dis, regardez les manuels de sciences économiques et sociales imprimés en 2012. Vous n'avez aucun manuel qui ne présente pas le discours de la moyennisation. Vous avez heureusement aussi des manuels qui présente le discours critique, heureusement. Mais ce discours de la moyennisation, à mon sens, est hautement problématique, même par rapport aux faits. Mais passons. Alors le discours ensuite qui a du succès, tout le monde le connaît, alors ça, succès médiatique énorme, c'est le discours sur l'exclusion. Ah oui. En fait, alors ça, c'est le discours qui a été porté, notamment par les Touréniens, mais pas seulement. Touraine l'a porté, Dubé l'a porté, Pogam l'a porté à Pogam, il s'est réveillé quelques années plus tard, maintenant son laboratoire est censé être spécialisé sur les inégalités sociales. Bon, enfin, jamais trop tard pour changer, et c'est très bien au contraire de changer. Aujourd'hui, il reconnaît que le discours sur l'exclusion, c'est du n'importe quoi. C'est comme lui qui avait publié un état des savoirs sur l'exclusion, où il érigeait le concept d'exclusion au rang de nouveau paradigme. Ah, quel est le problème de cette approche en termes d'exclusion ? Ben, telle qu'elle a été présentée, c'est une approche qui se contentait de spatialiser la question sociale. On a les in et les out, métaphores spatiales, qui accompagnent la politique de la ville, qui a été elle-même portée idéologiquement précisément par les Touréniens, notamment par Dubé. Sylvie Tissot l'a très bien analysé dans l'un de ses bouquins, donc je ne développerai pas. Et le discours sur l'exclusion, c'est qu'il y a les in et les out. Et Touraine est assez génial de ce point de vue, dans une interview à la presse longue, il a mêlé le discours de Mandras, de la moyennisation, et le discours sur l'exclusion, en expliquant, je n'invente pas, je donne dans mes bouquins la référence de l'interview, il y a les in, on est très moderne, hein, il y a les in et les out. Les in, ce sont ceux qui sont à l'intérieur, allez, les 80% de la classe moyenne, bien sûr. Et les out, c'est ceux du bas. Donc là, on oublie ceux du haut. C'est ceux du bas, c'est les out, c'est les précaires, c'est les exclus, c'est les nouveaux pauvres. Par contre, ce discours ne nous donne aucune clé pour expliquer comment ces out ont été produits, comment l'exclusion est produite. Parce que précisément, c'est un discours qui contourne le discours de classe, qui contourne le concept de rapport de classe et qui ne nous donne aucune clé pour expliquer comment l'exclusion est produite. Alors, je suis en désaccord aussi, il faut bien le dire, avec la notion de précariat qui est portée de manière différenciée par Castel et par Pogam. Pourquoi opposer le précariat au salariat ? Ben pour les mêmes raisons. C'est oublier complètement que le précariat est intrinsèquement présent en permanence depuis qu'on a le capitalisme. La précarité fait partie du fonctionnement normal du capitalisme. Marx avait inventé là un concept, me semble-t-il, plus intéressant pour parler de ce processus justement de précarité et d'exclusion. Ben, il a parlé d'armée de réserve, d'armée industrielle de réserve, mais on peut parler plus largement d'armée de réserve, oui, qui permettent précisément de faire pression en permanence sur les salaires, sur le niveau des salaires. Mais là, je renvoie, si ça vous intéresse, si vous voulez creuser cette critique, à un excellent article de mon ami Alain Bire, qui est en ligne également, un article qui a été publié dans la revue en ligne Interrogation. Vous tapez Alain Bire, précarité, interrogation, vous avez l'article qui rappelle ces choses élémentaires. Et à mon sens, c'est la faiblesse de l'analyse de ceux qui érigent le précariat comme catégorie distincte et opposée au salariat. Pour moi, ça n'a pas de sens. Bon, je fais beaucoup de digression, mais enfin, je suis toujours dans mon sujet, même si je ne vais pas en dire beaucoup plus à propos de ce discours-là. Alors, sur le discours de l'individualisation, là, les plus malins, c'était Fitoussi et Rosan Vallon dans le Nouvel Âge des inégalités, qui nous disent que les classes sociales, ça n'existe plus, mais qu'il y aurait individualisation des inégalités sociales. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est oublier précisément le caractère segmenté, hiérarchisé et conflictuel de la société, oublier l'importance de ces groupements. Je ne développe pas sur ce point. Par ailleurs, le dernier livre, La société des égaux de Rosan Vallon, je trouve là, c'est du grand guignol. Quand on a œuvré pendant 20 ans, pour transformer la social-démocratie en une social-démocratie qui accepte le tournant néolibéral, de revenir après en remettant en avant de nouveau l'égalité. Ben, quand on a œuvré pendant 20 ans pour casser, je trouve qu'on n'a pas beaucoup de légitimité, d'autant plus que dans son livre, il ne revient pas sur sa trajectoire passée, et pire encore, il cite aucun des grands travaux sur les inégalités sociales. Et assez extraordinaire. Mais passons. Lui, par contre, il fait les grands titres des quotidiens. Quand le bouquin est sorti, Libération a titré sur la sortie du livre. Passons. Je pourrais parler également longuement du discours qui est tenu par les clubs de réflexion et autres think tanks. Je m'étais amusé, et c'est dans mon livre Inégalité et rapports sociaux, à analyser le discours qui était développé par la Fondation Jean Jaurès avant 2002. C'était déjà un discours qui reprenait justement ces discours de substitution que j'ai évoqués rapidement, qui déniait l'intérêt du concept de classe sociale et de rapport social, qui reprenait tout ce que je viens de vous dire avant, lien social, exclusion, moyennisation, classe moyenne, enfin tout ça. Et la Fondation Terra Nova, là, ça fait un peu de bruit, leur texte qu'ils ont sorti, c'est le même discours, mais en plus accentué encore. Mais allez voir les textes, lisez-les de manière critique, c'est assez clair. Et pour ce qui est du discours tenu par les héros de la droite, Sarkozy, pour le nommer, quand on regarde le discours tenu lors de la précédente campagne, alors c'est un discours très malin, le clivage central de la société, c'est le clivage entre ceux qui se lèvent tôt et les profiteurs. Attention, les profiteurs, entendus dans le sens des assistés, les bénéficiaires de droits sociaux. ceux qui se lèvent tôt, n'est-ce pas, ceux qui valoriseraient et les assister. Par contre, ces petits copains, la grande bourgeoisie n'existe pas dans le clivage qu'il présente au niveau rhétorique. Et comme il ne prend pas le métro le matin, il ne se rend pas compte non plus que dans les premiers métros le matin, il n'y a pas beaucoup de blancs. Ça, c'est pour insister sur le rapport de racisation aussi, qui est articulé au rapport de classe. Mais par ailleurs, il va développer un discours de stigmatisation des étrangers. C'est assez extraordinaire, finalement. La France qui se lève tôt, c'est intéressant de voir ce que c'est que la France qui se lève tôt. Chacun d'entre nous peut en faire l'expérience en prenant les premiers métros du matin. La dernière fois que je l'ai pris, c'est vrai que c'est en rentrant en avion. Donc j'ai passé par le métro tôt le matin, ben, c'était net. Et j'ai fait la même expérience à Milan ou à Madrid, c'est rigoureusement la même chose. Mais bon. Donc les discours, enfin, bon, là je commence à... Je m'arrête, allez, je m'arrête. Merci. Merci, on va pouvoir discuter. C'est peut-être un peu superficiel, mais j'espère avoir été assez clair quand même.
Loin de là, vous montrez bien quelle est toujours l'importance des rapports de classe en France aujourd'hui. Et c'est fascinant de voir comment cette mise à nu de l'aggravation des rapports de classe, en fait, s'accompagne de discours de contournement. Est-ce que vous avez des questions pour cette...
Bon, je vous remercie avant tout pour votre précise et claire intervention sur les inégalités. Donc, d'après vous, le discours de discrimination positive, est-ce qu'il trouve vraiment, elle sert à quelque chose ou c'est juste un terme évacuateur ? D'une part. D'autre part, la deuxième remarque, c'est la classe moyenne. Donc, il y a une étude, je suis marocain, donc une étude au Maroc, du Haut Commissariat au Plan, sur la classe moyenne. Ils ont découvert qu'il y a plus de classe moyenne. Il y a des riches, il y a des pauvres.
Bon, je vous remercie pour les deux questions. Ça me permettra de rebondir sur... D'une part, je n'ai pas utilisé le mot discrimination. C'était un peu volontaire, je vous dirai après pourquoi. Et je vais commencer par la deuxième et je parlerai plus longuement sur le premier point. Alors, pour la classe moyenne, je pense qu'on peut très sérieusement, nulle part, mettre en évidence empiriquement l'existence de cette classe moyenne. Il y a un excellent article qui a été publié dans la nouvelle revue Sociologie au pluriel, qui est publié au PUF, d'un auteur suisse, en tout cas d'un auteur qui traite de la société suisse et qui teste justement l'hypothèse de la société suisse comme société de classe moyenne. Ben, sa conclusion est la même. Non, la société suisse est une société polarisée avec des clivages sociaux nets, massifs, au même titre que la société française. Ce terme de classe moyenne est un terme qui vise à noyer le poisson, en fait. À mon sens, fondamentalement. Donc je ne développe pas davantage, donc ça ne m'étonne pas qu'une étude empirique mette en évidence, aussi bien au Maroc que dans d'autres pays, l'opposition de classe fondamentale. Évidemment, ces oppositions, y compris au niveau de l'ampleur des inégalités, elle est plus ou moins forte selon les pays, selon les sociétés. Et je doute qu'elle soit moindre au Maroc qu'en France. C'est plutôt l'inverse, probablement. Enfin, pour des pays que je connais mieux, Brésil, le Chili, les inégalités sociales sont encore plus fortes. Mais bon, je ne développe pas ce point. Alors, la question de la discrimination et le vocable de discrimination, quel est son intérêt, quelles sont ses limites ? Je pense qu'il faut être extrêmement rigoureux au niveau des mots qu'on utilise et des mots qu'on associe. Et les concepts qu'on utilise et les concepts qu'on associe. Et il me semble qu'il faut préciser le sens de quatre termes qui renvoient à des réalités qui sont mêlées, en fait. Mais on fabrique des concepts précisément pour essayer de voir clair dans la réalité, qui est toujours confuse. Concept de domination, concept d'exploitation, concept de stigmatisation et concept de discrimination. Et il me semble que ces trois concepts ont leur intérêt à condition de ne pas les utiliser forcément séparément. mais de les utiliser précisément dans le cadre d'une articulation des rapports sociaux. Il me semble que ces quatre concepts réunis nous déclinent, je dirais, différents aspects de l'oppression. Mais l'oppression, on peut la cerner de différentes manières selon ce qu'on va mettre dans le projecteur. Quand on parle de domination, finalement, qu'est-ce qu'on privilégie ? Quand on parle de domination, on privilégie finalement les rapports de pouvoir. On privilégie les rapports de pouvoir. Il y a un groupe dominant, un groupe dominé, par exemple, qui a du pouvoir de toutes sortes, qui dispose de ressources de toutes sortes, j'en ai parlé tout à l'heure, qui sont mises en œuvre pour accroître certaines de ces ressources et certains de ces privilèges, etc. Est-ce qu'on est au clair par rapport au concept de domination ? Concept de domination extrêmement utile, qui a été développé, utilisé par des auteurs depuis très longtemps. Ce n'est pas Bourdieu qui l'a inventé, par contre Bourdieu en fait un usage exclusif. C'est en sens, là aussi, c'est une limite, à mon sens, de l'approche bourdieusienne. Mais le concept de domination, on l'a chez Weber, il n'est pas absent chez Marx. On le trouve chez des auteurs beaucoup plus anciens. Ensuite, le concept d'exploitation. Le concept d'exploitation, ben, c'est un sens précis. C'est tout simplement le fait qu'un groupe bénéficie du travail ou du résultat du travail d'un autre groupe qui n'est pas rémunéré à sa juste valeur. C'est rien de plus, rien de moins. Vous remarquerez, chez Bourdieu, il n'y a jamais d'exploitation. Il ne parle pas d'exploitation, mais il ne parle pas de travail. Pas étonnant que l'exploitation passe à la trappe. Vous voyez les limites de l'approche. À mon sens, il faut évidemment articuler le concept de domination et le concept d'exploitation. Bien entendu, la domination, bah, elle est mise en œuvre éventuellement pour accentuer l'exploitation. Alors Luc, qu'en est-il des concepts de stigmatisation et de discrimination ? Bah, stigmatisation, ça renvoie au fait que les membres d'un groupe sont dévalorisés en vertu de certains attributs visibles ou invisibles, réels ou fictifs, et le groupe va être stigmatisé. Allez, les femmes, elles peuvent tomber enceintes. Donc on ne va pas les embaucher pour certains postes, par exemple. Mais la stigmatisation, il faut l'articuler à l'exploitation et l'articuler à la domination. Il ne faut pas envisager uniquement les choses en termes de stigmatisation. Ça, c'est à mon sens la limite de l'approche de Goffman, qui est intéressante. Mais le problème, c'est que c'est univoque. Alors maintenant, la discrimination, ben, c'est le fait que les membres d'un groupe donné, finalement, aient, par exemple, moins de droits, ou dans des situations concrètes, réelles, moins d'avantages, quels qu'ils soient, que les membres d'un autre groupe. Par exemple, ben, les non-blancs vont être discriminés à l'entrée des discothèques, pour prendre un exemple un petit peu superficiel. Et on va dire que leur tenue n'est pas adéquate. Hein? Ou encore, s'ils n'ont pas la nationalité, problème de papier, ils vont être discriminés sur une série de points. D'accord ? Mais les femmes peuvent être discriminées aussi. Et la stigmatisation peut très bien s'associer à la discrimination. Mais, à mon sens, là où on fait erreur, c'est quand on autonomise les processus de discrimination, de stigmatisation, et qu'on les sépare totalement de la domination et de l'exploitation. Je ne sais pas si vous voyez dans ce sens. Et évidemment, ce faisant, je mets au centre, comme concept central, le concept de rapport social. Et avec les exemples que j'ai pris, je défendrai bien sûr l'idée de l'articulation des rapports sociaux. Alors, question qui m'est souvent posée, je l'anticipe, bah, quels sont les rapports sociaux primordiaux ? À mon sens, les rapports sociaux primordiaux, ce sont les rapports sociaux à travers lesquels il y a non seulement discrimination, stigmatisation et domination, mais aussi exploitation. À mon sens, deux. Rapport de classe et rapport de sexe. Parce que dans les deux cas, il y a appropriation du travail d'un groupe par un autre groupe, sans qu'il y ait forcément rémunération équivalente. Bien entendu, dans le cas du
groupe des hommes et du groupe des femmes, le travail inclut évidemment le travail domestique, qui longtemps était considéré comme n'étant pas du travail, même pas une activité. L'INSEE continue à considérer que les femmes au foyer sont des inactives. Catégorie officielle. Ce qui se produit du travail, concept important, concept de production, encore un désaccord avec Bourdieu, je reviendrai, concept de production tout à fait essentiel, qui est directement lié au travail. Ce qui se produit, par exemple, dans un cadre domestique, et qui s'y consomme aussi, comment c'était désigné pendant très longtemps, on parlait d'autoconsommation. Mais on ne parlait jamais d'autoproduction. Il y a de l'autoconsommation parce que il y a la préparation des repas, parce que autrefois, ce n'est plus le cas aujourd'hui, les femmes faisaient des tricots et faisaient des chemises et que sais-je encore, cultivent le jardin, etc. On parlait d'autoconsommation. Les économistes parlaient d'autoconsommation, jamais d'autoproduction. Parce que précisément, le concept de travail était réduit à la seule activité professionnelle. Alors là, ça permet de voir aussi comment un concept aussi central, concept de travail, a été modifié par le mouvement féministe et la sociologie critique féministe. Le concept de travail a été redéfini. Bon, voilà. Est-ce que c'est assez clair ? Voilà. Allez, est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Moi, j'avais une question sur, oui, dans le prolongement de la précédente. Si,
oui.
Si j'applique votre raisonnement à la notion de diversité, qui est si en cours aujourd'hui et qui fait certainement partie de ces discours de substitution sur lesquels vous avez insisté. Si je vous suis, on peut considérer que la notion de diversité, en fait, elle est là aussi pour masquer la réalité des rapports de classe et de race.
Ah, je suis évidemment totalement d'accord avec votre présupposé. Alors, ça a été travaillé de manière très intéressante. La notion de diversité, où est-ce qu'elle a été inventée ? La notion de diversité a été inventée par des secteurs de grandes entreprises. En fait, pour être précis, pour utiliser le langage mode, par les services de personnel, par le secteur RH, hein, ressources humaines. Non, mais les mots ont leur importance, toujours. Alors, on utilise des sigles, un mot sur les sigles, les SDF, sans domicile fixe, c'est en fait un sigle policier. Les SDF, ça désignait les individus, les gangsters, qu'on ne pouvait pas repérer, qui changeaient d'hôtel à tout bout de champ, c'était les SDF. Vous voyez comment ça s'est déplacé du vocabulaire policier vers, non pas les sans-domicile fixe, SDF, mais les sans-domicile tout court. Vous voyez le sigle policier qui est utilisé, non pas pour désigner... Bon, ben c'est marrant le glissement. Mais je reviens à la question sur la diversité. Le terme de diversité est encore une fois un de ces termes, à mon avis, confusionniste. Confusionniste parce qu'il permet de masquer les rapports de racisation. Il permet de masquer les rapports de racisation et il permet de ne pas penser en termes de rapports sociaux et donc d'articuler les rapports de racisation au rapport de sexe, au rapport de classe. Je précise, j'utilise volontairement le néologisme de rapport de racisation. Je ne l'utilisais pas encore quand j'ai publié Inégalité rapports sociaux en 2007, mais j'ai commencé à l'utiliser à peine le bouquin était sorti, parce que ça permettait de régler, je pense, très largement les discussions régulières que j'avais quand j'utilisais le terme de rapport de race, où il fallait mettre des guillemets, il fallait s'expliquer. Le terme de rapport de racisation, le terme de racisation en tant que néologisme, est fondamentalement intéressant, parce qu'il met l'accent sur un processus, racisation, c'est un processus, et quel est ce processus ? C'est tout simplement la fabrication des races par le racisme. Fabrication des races par le racisme, et bien évidemment derrière ça, il y a toujours le fantasme de la race pure, pour être encore plus précis, il y a le fantasme de la race blanche pure, et bien entendu, tout le monde sait que les hommes et les femmes se mélangent, et que... Justement, ça complexifie sérieusement les choses quand on met à les classer, comme aux États-Unis, en catégories. Alors on a la race hispanique, pas mal, intéressant, hein, pour la définition de la race hispanique aux États-Unis. Non, mais racisation est un néologisme que j'assume tout à fait, et qui me semble utile parce que ça permet de mettre l'accent là-dessus. Je ne sais pas si j'ai répondu à une référence. Quand même, une référence, enfin, c'est un excellent travail. Vous trouverez ça sur le net. Il y a une collègue de Lille, Milena Doicheva, D-O-Y-T-C-H-E-V-A, Milena Doicheva, qui a publié plusieurs textes critiques sur la notion de diversité. Je vous invite à aller chercher. L'intérêt d'Internet via un moteur de recherche est évident quand on sait ce qu'on cherche. Par contre, quand on cherche de manière aveugle, c'est une catastrophe. Et d'où l'usage catastrophique de beaucoup d'étudiants de cet outil. Mais quand on sait ce qu'on cherche, c'est génial. Je sais pas, j'ai pas répondu ou j'ai répondu.
Voilà.
Donc, c'est pas, pour moi, ça fait partie du vocabulaire de diversion. Et on a régulièrement comme ça. Alors, comment ça rentre dans l'université? C'est génial. Moi, j'ai vu ça à Strasbourg. Ça rentre par le biais d'un des secteurs de l'université qui est privatisé, en fait, de facto, avec des droits d'inscription énormes, c'est l'école de commerce, qui a changé de nom. Dont le contenu, on le sait, il y a eu des articles publiés depuis longtemps sur le contenu de HEC, mais dans les écoles de commerce de rang inférieur, c'est encore pire, le contenu est en général nul, inconsistant, ce sont des écoles de formatage. Et effectivement, les écoles de commerce intégrées dans les universités, on leur demande maintenant de faire de la recherche. On sait que dans les écoles de commerce, le recrutement se fait hors thèse la plupart du temps. Nos collègues maîtres de compte dans les écoles de commerce sont très rarement titulaires d'un doctorat. Mais maintenant, comme les normes changent, donc il y a des doctorats dans certaines disciplines qui sont un peu différents. Je pense à la gestion. Les collègues gestionnaires vont m'assassiner, mais c'est vrai qu'il y a des choses très diverses. Et par exemple, le thème de la diversité a fait son apparition. Donc on organise, d'école de commerce au sein de notre université, organiser un grand colloque sur la diversité. On m'a demandé d'être dans le comité scientifique. Donc j'ai accepté à condition que ce soit un colloque critique. On a bien entendu refusé que ce soit un colloque critique. Donc j'ai refusé d'être dans le comité scientifique. Et en fait, on a donné la parole aux gens des RH, des grandes entreprises et à quelques collègues des écoles de commerce qui reprennent ce discours. Mais c'est très intéressant de voir comment c'est fabriqué.
C'est-à-dire qu'il y a un élément qui reste un peu mystérieux, c'est la façon, parce que vous avez parlé de la production de ce discours de substitution, oui. Production au sein du champ académique,
oui.
Et la question c'est après comment est-ce que ça circule, parce que le champ académique, bon, ça peut être des joutes oratoires au sein d'amphithéâtres, mais comment est-ce qu'après, par quel relais ça se répand dans la société, au point de devenir des visions dominantes?
Alors ça c'est une question fondamentale, parce qu'il faut quand même dire les choses clairement, dans les années 80-90, je pense qu'il y avait beaucoup plus de sociologues qui travaillaient de facto sur les rapports de classe, sans forcément le dire de cette manière, mais les collègues, je pensais au Pinson, mais ils n'étaient pas les seuls, mais ils ne sont pas nombreux, qui travaillaient sur la bourgeoisie. Je pense aussi aux collègues qui travaillaient sur d'autres catégories de la société, que ce soit les collègues qui travaillaient sur le monde ouvrier, les collègues qui travaillaient sur le monde des employés, etc. Il y a un tas de travaux qui ont été menés. Simplement, ces travaux n'ont pas acquis la même visibilité, laquelle, médiatique et politique. Parce que c'est effectivement dans le déplacement dans ces deux champs qui, d'une part, donne de la légitimité aux collègues qui produisent ce type de discours dans le champ, et la légitimité et la visibilité, et qui d'autre part sont considérés à l'extérieur, dans le champ médiatique et dans le champ politique, comme étant les représentants et les plus légitimes du monde académique qui expriment un discours sur le monde social. Par exemple, vous voyez par exemple l'omniprésence pendant deux décennies, sinon trois, de Touraine. Certes, Bourdieu a aussi joué beaucoup de la présence dans l'espace médiatique, tout en soulignant les limites de la présence d'un discours politique dans l'espace médiatique. La principale limite, c'est qu'il n'est jamais possible, effectivement, de développer un discours construit. J'ai encore eu l'occasion récemment d'être invité à une émission de France Culture pendant 40 minutes. Bah, pendant 40 minutes, je pense que j'ai dû avoir la parole, nous étions trois, les deux autres tenaient des discours radicalement divergents par rapport au mien. Il y avait bien sûr l'animateur. Je pense que j'ai dû avoir la parole 5 minutes en tout et pour tout. Et étant donné le bruit de fond qui est fait par l'animateur et les deux autres discours, c'était un discours juridiste, je dirais, sur le fond, si on veut être entendu par l'auditeur, on n'a pas d'autre solution, malheureusement, que de répéter avec des variations la même idée trois fois. par exemple, si on veut au moins que cette idée-là ait le droit de citer. Mais ça reste un discours qui est écrasé par le discours, le bruit ambiant. Là, je prends cet exemple, ça portait sur un tout autre sujet, hein. Ça portait sur le statut Alsace-Moselle non laïque, qui n'a jamais été discuté. Alors par contre, il y a eu du bruit médiatique absolument monstrueux sur les filles qui portaient un foulard. Mais par contre, le fait que tous les Français payent pour les ministres du culte en Alsace-Moselle, ça ne fait pas de bruit. Le fait que la majorité des filles qui ont été exclues de l'école à cause du foulard, c'est en Alsace-Moselle, y compris d'établissements où il y a des curés et des pasteurs qui donnent des cours de religion et qui siègent au conseil de classe dans les écoles publiques. Non mais, je veux dire, vous avez là une démonstration claire que c'est une mesure raciste, point. Je veux dire, c'est pas une mesure pour défendre la laïcité. Comment veut-on défendre que c'est une mesure pour défendre les filles alors qu'on les vire de l'école? Comme si le droit à l'éducation n'existait plus. Enfin, je donne des choses, mais... Et quand on regarde tout ce bruit à partir d'un regard strasbourgeois, donc d'un monde non laïque, où on trouve encore des écoles publiques avec des crucifix, ça ne gêne pas, là. Non. Mais là, par exemple, France Culture s'était décentralisé, mais on a donné la parole à un représentant d'un des cultes, à un collègue qui défend les intérêts de l'évêché, et à moi, parce que je défends une position laïque, on n'a pas invité un représentant d'une association laïque. Alors qu'il y en a plein. Mais bon, ça c'est le problème de comment circule le discours. Donc on a un bruit dominant. Alors ensuite, le niveau politique, il faut vraiment dire un mot. Au niveau politique, regardez les grands partis de pouvoir. Ben, c'est un discours de consensus, un discours d'apaisement. Le mot classe sociale n'est pas utilisé par les gens du Parti Socialiste, et je ne suis même pas sûr que d'autres élus, d'autres partis l'utilisent souvent. Ça a été relevé, le fait que Marie-Georges Buffet n'avait pratiquement pas utilisé le terme ouvrier lors de la campagne présidentielle où elle était candidate. Donc il y a des vrais problèmes à ce niveau-là, parce que c'est un peu comme si un champ donné, là je pense que c'est pertinent, un champ donné recadrait ou modifiait le discours pour a priori considérer ce qui passe, ce qui ne passe pas. De ce point de vue, le discours, même s'il est peut-être un peu rapide par moment de Bourdieu sur la télévision, n'est pas totalement à côté de la plaque. Enfin, je ne sais pas si je me suis fait comprendre.
Oui, très bien. Juste une précision, quand vous parliez de la sociologie allemande, oui, de l'après-guerre, et vous parliez bien sûr, j'imagine, de la République fédérale.
Oui, voilà. Vous avez parfaitement raison. Voilà.
Et justement, je voulais vous demander quelle était la situation plutôt dans les RDA, et quelle est la situation aujourd'hui de la sociologie allemande. Est-ce qu'elle est sortie dans ce cadre-là, qui est issu de la sociologie nazie, ou est-ce qu'elle est allée vers autre chose? Parce que bon, moi j'ai parlé avec des Allemands qui m'ont parlé un peu de Bourdieu, je sais qu'il est passé de l'autre côté du Rhin.
Alors c'est difficile de donner une réponse générale. Il faut quand même être clair là-dessus. Je ne connais pas les productions qui ont été réalisées en DDR, dans la période DDR. Donc, je ne peux pas en parler, simplement parce que j'ignore. Pour ce que je connais des productions en République fédérale allemande, il faut préciser que la situation est très différente d'une université à une autre. Il y a quelques universités dans lesquelles il y a toujours un pôle critique d'inspiration martienne qui existe, par exemple à Hambourg et à Rennes, mais la plupart des universités sont des universités plutôt conformistes, avec parfois des théorisations intéressantes, parfois moins intéressantes, mais il y a plusieurs grandes différences, me semble-t-il, entre le champ de la sociologie française et le champ de la sociologie allemande. Il y a premièrement le fait que la sociologie française a connu une évolution au cours des 30 dernières années, je dirais 30-40 dernières années, je dirais une évolution vers l'empirisme de manière peut-être trop accentuée. Je suis tout à fait d'accord pour ma part avec le fait qu'il est nécessaire de prélever de l'information sur le monde et faire du va-et-vient théorie-empirie en permanence. Mais on ne prélève pas de l'information sur le monde sans appareillage théorique. Et j'ai le sentiment qu'en France, on est un petit peu allé vers l'empirisme de manière un peu excessive et que tout ce qui est théorie est quand même assez fortement dévalorisé, y compris par un courant qui est en train de s'affirmer comme courant dominant, je pense au courant bourdieusien, où on considère trop, malheureusement, l'appareillage conceptuel bourdieusien comme un ensemble à prendre comme tel, étant toujours valable et qu'on ne discute pas, c'est tout à fait dommage, d'autres théorisations sont a priori considérées comme n'étant pas de la sociologie, comme étant de la philosophie, comme étant de la philosophie sociale, et on a des attitudes assez terribles, par exemple au CNU, quand il s'agit de qualifier les jeunes docteurs pour être maîtres de conf, ou les professeurs pour passer prof, enfin les habilités pour passer prof, où le travail théorique est fortement dévalorisé. C'est-à-dire qu'un dossier qui ne comporte que du travail empirique, où la théorisation est quasi absente, va être qualifié. Par contre, un dossier où il y a peu de travail théorique, peu de travail empirique, voire pas de travail empirique, c'est essentiellement un travail sur des textes, sur l'histoire de la discipline, un travail épistémologique par exemple, un excellent dossier peut être refusé. Et j'ai moi-même siégé pendant un an et j'ai vu d'excellents dossiers d'épistémologie, voire la qualification refusée parce qu'il n'y a pas de travail du terrain. Je trouve que là on tombe dans l'absurdité, comme si un travail épistémologique n'apporterait pas quelque chose à la collectivité des sociologues. De même, un travail historique apporte quelque chose à la collectivité des sociologues, et il faut prendre le terrain au sens très large du terme et pas dans un sens étriqué. Alors en Allemagne, justement pour revenir là-dessus, la séparation, je dirais, philosophie sociale, sociologie, nettement moins accentuée. Alors avec des courants extrêmement diversifiés, vous trouvez aussi des essayistes à la Touraine. Hein. Pour moi, quelqu'un qui est traduit, Ulrich Beck, fait partie de cette catégorie-là. Clairement, fait partie de ces prophètes qui ont toujours réponse à tout dans leur tribune qui publient régulièrement. Mais il y a d'autres théorisations, on pense qu'on veut, mais en tout cas, c'est des œuvres fortes, éventuellement des accords, mais vous prenez Habermas, par exemple, mais prendre un exemple, une collègue qui a fait sa thèse ici même, à Paris 8, excellente thèse, sur Habermas, a vu sa qualification refusée deux fois au CNU en sociologie, avec l'argument, mais ce n'est pas de la sociologie. Vous voyez, bon, finalement, elle est qualifiée, il n'y a pas de problème, mais simplement pour vous dire, cette différence, elle est là. Et c'est vrai que vous avez des auteurs comme Bonnet, Habermas, mais je pourrais en prendre d'autres, Luhmann, qui sont effectivement un niveau de théorisation qu'on peut discuter, mais le champ de la sociologie est assez différent de ce point de vue-là.
Est-ce que les discours d'Axel Honneth ou de Luhmann sont entendus, est-ce qu'ils ont un écho dans la sphère, soit dans la sphère académique, soit dans la sphère publique?
En Allemagne, je ne peux pas vous dire parce que je ne lis pas régulièrement la presse. Donc, je ne regarde plus la télé parce que j'ai plus de télé depuis 15 ans, donc j'ai réglé le problème.
Dans la sphère académique,
oui, incontestablement. Incontestablement. Mais vous voyez bien comment ça se passe en France. Il faut créer des postes spécifiques, philosophie, sociologie, pour que... Voilà. Mais là, c'est une grande différence. Hein. Et à mon sens, il serait souhaitable que... ne se développe pas en France un certain sectarisme parmi ceux qui, disons, sont en train de détenir tous les leviers de pouvoir dans la discipline. Et j'ai quelques craintes à ce sujet.
J'avais une question.
Oui.
J'avais une question un peu par rapport à la question antérieure. Est-ce que vous utilisez précisément le concept de soft power si vous sert à penser ces discours
Je réponds tout de suite, peut-être par ignorance, je ne l'utilise pas et je ne sais pas trop ce que mettent dedans les gens qui l'utilisent, mais ça c'est par ignorance.
D'accord. Et donc ces discours de substitution,
En tout cas, c'est des textes que je n'ai pas travaillés, donc je ne veux pas parler des choses que je n'ai pas travaillées.
D'accord, c'est juste.
Ça va.
C'est-à-dire que là, l'accent est mis sur comment est-ce que les choses qui viennent d'ailleurs sont réacclimatées en France. Vous parliez du rôle des think tanks.
Oui.
C'est vrai qu'il y a des think tanks en France qui réacclimatent des idées qui viennent des États-Unis.
Oui, Bauman, Société liquide, je trouve que c'est des concepts, des métaphores, ben, moi ça ne m'aide pas. Peut-être que ça aide d'autres, mais je n'ai pas bien compris. Oui.
La critique qu'ils ont faite à une pensée en termes de rapports sociaux, c'est de dire qu'elle ne permet pas de penser les résistances des individus ou les capacités d'action, tout ça. Enfin, j'aimerais savoir comment, dans ce cadre d'analyse, on peut
Je vous remercie vraiment beaucoup pour votre question. Je vous remercie beaucoup pour votre question parce que précisément, il me semble qu'une sociologie des rapports sociaux permet d'éviter les impasses d'une sociologie mettant l'accent de manière trop unilatérale sur la structure sociale. Une sociologie des rapports sociaux permet dialectiquement de penser à la fois la domination et la résistance à la domination. De même que dialectiquement, une sociologie des rapports sociaux permet de penser à ceux qui opposent, divisent les groupes, mais aussi ceux qui les unissent, qui les rapprochent. De même, une sociologie des rapports sociaux permet de penser dialectiquement la dimension objective et la dimension subjective. Alors j'ai quand même développé un tout petit peu la question précise que vous posez. Donc il me semble qu'aujourd'hui, il y a trois façons d'envisager ou de ne pas envisager la question des résistances, ou la question des marges de manœuvre ou des marges d'action possibles. Première façon, c'est de mettre l'accent de manière unilatérale sur la domination. Et donc on va développer une sociologie de la domination, on va mettre l'accent sur la domination, et on met tellement l'accent sur la domination qu'on ne voit plus très bien comment on peut résister à cette domination. Ce qui fait que Bourdieu lui-même va, par exemple, à propos des mouvements de chômeurs, parler de miracle social. Il est obligé de recourir au terme de miracle parce que son cadre théorique l'empêche de penser la résistance de catégories fortement dominées. C'est symptomatique, à mon sens, de la faiblesse. La deuxième façon d'aborder la question de la résistance, c'est de mettre l'accent de manière presque aussi unilatérale sur les marges d'action, les logiques d'action des dominés. C'est par exemple l'approche en termes d'acteurs faibles, telle qu'elle est développée par certains, qui n'est pas inintéressante quand on l'oppose à celle que j'ai mentionnée avant. Mais à mon sens, ces deux approches ont le même défaut, mais inverse, c'est de mettre l'accent de manière beaucoup trop unilatérale sur un des volets. Et il me semble qu'une sociologie des rapports sociaux permettrait de prendre en compte à la fois la domination, telle qu'elle s'exerce notamment à travers de multiples médiations, mais aussi et en permanence, même quand elles sont réduites, même quand elles sont limitées, les marges d'action qui subsistent toujours, y compris dans les situations les pires, aussi bien, et je voudrais insister aussi sur ce point, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif. Alors bien évidemment, tant que ça se situe au niveau individuel, c'est moins visible, mais elles existent aussi. On a parfois tendance à l'oublier aussi. Mais j'insisterai bien sûr sur les marges d'action collective, et là ça pose une autre question, c'est la question de la dialectique de l'individuel et du collectif. La question de la dialectique de l'individuel et du collectif, dans la mesure où l'émancipation individuelle, je reviens à Marx, l'émancipation individuelle dépend fondamentalement du collectif sur lequel les individus peuvent s'appuyer. Je veux dire par là que l'émancipation individuelle n'est pas possible dans un cadre d'individualisation croissante. L'émancipation individuelle n'est possible qu'à partir du moment où il y a du collectif, qu'à partir du moment où il n'y a pas d'atomisation. Là, je me permets de faire un peu de signaler un autre bouquin que j'ai publié il y a 3 ans avec Philippe Cardon et Daniel Carboat, qui s'intitule précisément « Chemin de l'émancipation et rapports sociaux de sexe », où on a d'une part écrit une longue introduction sur cette thématique de l'articulation de l'individuel et du collectif, la dialectique de l'individuel et du collectif, et on publie toute une série de textes à la fois théoriques et empiriques
qui précisément se confrontent à cette question. Je ne sais pas si j'ai répondu. Et c'est en ce sens que je ferai la promotion en termes d'orientation d'une sociologie des rapports sociaux. Une sociologie des rapports sociaux pour précisément tenter de dépasser les impasses d'une sociologie qui met l'accent de manière trop unilatérale sur la structure sociale. Et c'est vrai aussi bien pour certaines sociologies marxistes un peu classiques, c'est vrai de la sociologie bourdieusienne, mais en même temps pour critiquer aussi les sociologies qui ont tendance un peu à négliger les déterminismes qui pèsent, qu'il faut prendre en compte, mais qui mettent, disons, qui tombent dans une espèce d'enchantement de démarches de manœuvre possibles. Et il me semble que c'est une voie pour essayer de tenir les deux bouts. Enfin.
Ah, mais ça me fait réagir à quelque chose sur lequel j'avais déjà réagi au cours de l'intervention. C'est que ce qui semble important, c'est de rappeler que la réalité des rapports sociaux, c'est le conflit. Que par rapport à des théories de la domination qui se focaliseraient là-dessus, où finalement la réalité du rapport social serait l'accomplissement d'un projet de domination. Là, ça serait ce serait cela, et donc il y aurait effectivement, sans dériver sur une fin de l'histoire, mais effectivement la dimension de cet aspect conflictuel dans lequel il y a précisément, on puise la réalité objective de la totalité des résistances possibles à l'univers collectif. À mon avis, c'est dans cette conflictualité.
Je suis d'accord.
Ça évoquait ce que vous disiez sur effectivement l'obligation du conflit. Pourquoi est-ce qu'on a plus de le conflit? Ça me renvoyait à autre chose, donc avoir votre avis là-dessus, sur le conflit et la lutte. Autant dans la disparition de la lutte dans le champ politique, faire disparaître la conflictualité dans le champ sociologique pour évacuer la lutte dans le champ politique. Et autant le conflit s'oppose à la complémentarité, on pourrait dire, autant la lutte s'oppose au à l'engagement. L'opposé de l'engagement, ce serait la neutralité, alors que la lutte, ce serait l'acceptation. L'opposé de la lutte, on renvoie un peu à la séance précédente sur la dialectique des contraires. Et je trouve que c'est intéressant. Enfin, à votre avis, est-ce qu'il y a une similitude justement entre l'abandon du conflit en sociologie et l'abandon de la lutte dans le champ politique et des termes qu'on vient de leur substituer. La deuxième remarque, c'est quand vous disiez les out, on ne les explique pas. Et ça, c'est une faiblesse. Enfin, c'est une faiblesse. Il me semble que ce n'est pas une faiblesse. Que c'est vraiment fait exprès, c'est vraiment pour dire que ça ne s'explique pas. Et donc, qui produit les out? Mais les out se produisent eux-mêmes. Et donc, en ce sens-là, ce n'est pas une faiblesse. Le fait d'affirmer qu'il n'y a pas d'explication de l'intérieur du dispositif explicatif argumentatif, c'est précisément dire, mais on va le chercher ailleurs. On va chercher ailleurs, il faut donc mobiliser d'autres ressorts, la théorisation, etc., la psychiatrie, et là, bah, il se produit.
Je vais essayer de rebondir, mais je suis assez d'accord avec l'ensemble des remarques que vous avez faites. Alors, concernant les out, vous avez parfaitement raison. L'explication qui est donnée, c'est l'explication individuelle. Si les gens sont là où ils sont, c'est quelque part de leur faute. Et il y a toute une série d'autres procédures qui sont utilisées. Par exemple, quand on essaye de casser les dispositifs qui tournent autour de la qualification, qui est collective, ça renvoie à des procédures collectives, la qualification, et on met l'accent maintenant sur les compétences. Le livret individuel de compétences, individualisation précisément. Et la qualification collective, plus que ça, tout ce à quoi ça renvoie, par exemple, au niveau des conventions collectives, qui sont en train d'être déconstruites massivement, où, par exemple, tel niveau, tel type de poste implique tel niveau de salaire, ou tel niveau de formation implique tel niveau de salaire. Et aujourd'hui, plus personne parmi les jeunes qui sortent de l'université, etc., n'est surpris des salaires de misère qui sont proposés. Souvent, le SMIC est pris comme référence, non plus minimum, mais comme référence, y compris pour des gens qui ont Bac plus 5. Je passe là-dessus. Mais le glissement qualification collective, compétence individualisée va dans le même sens. Mais effectivement, derrière ça, il y a l'idée que ben, finalement, s'ils sont là où ils sont, c'est leur faute. D'accord avec vous. Mais il y a aussi l'idée de la spatialisation. C'est-à-dire il y a le in et out, il y a l'idée que les choses, il n'y a plus de rapports sociaux, il y a des rapports dans l'espace. C'est en, en rapport avec la politique de la ville. On va mettre l'accent sur toute la terminologie qui va parler des gens des quartiers, par exemple, le besoin de les qualifier. Avant, on parlait des beaux quartiers. Non, on parle pas de quartier du bourg, on sait qu'ils sont pas beaux. Hein. mais le vocabulaire est, est vraiment intéressant. Mais je voudrais surtout rebondir sur la première remarque à propos de l'importance du chêne du conflit ou de la lutte. Et sur le côté central dans le rapport social, précisément, du conflit, de la lutte, de la tension, peu importe le terme qu'on utilise, mais ce qui est central, ce n'est pas les groupements qui sont précisément opposés autour d'enjeux. La lutte est centrale. C'est la lutte qui est centrale et c'est la lutte autour d'enjeux précis, liés par exemple à la répartition de la richesse sociale, mais c'est la lutte. Donc autour d'enjeux qui va constituer les groupements. Les groupements ne sont pas préconstitués. Pour le dire autrement, la présentation que fait Lénine dans un de ses textes des classes sociales est de ce point de vue hautement fautive parce que cette présentation évacue le concept de rapport social. C'est une chose qui est présente chez Marx. Le concept de rapport social est premier. Et les groupements qui sont concernés par la tension dans le rapport social, ben, sont constitués, je dirais, après. Hein. C'est en même temps, mais après. C'est le rapport social qui est premier, et les groupements sont constitués dans le rapport social. Je ne sais pas si je suis assez clair. Alors, maintenant, pour ce qui est de l'importance du conflit dans la sociologie, je pense que c'est vraiment intéressant de revenir sur Durkheim, et de revoir les textes les moins connus de Durkheim, où notamment Durkheim se pose en une espèce de chantre de la cohésion nationale, relire de la division du travail social sous cet angle-là. Durkheim, c'est finalement quelqu'un qui accepte la société telle qu'elle est, avec sa complémentarité, et où chacun doit rester à sa place, et y compris la place du sociologue qui lui saura scientifiquement alors que le syndicaliste ne saura pas et n'aura qu'un point de vue faussé. Mais lui, il sait qu'il doit y avoir une cohésion, qu'il doit y avoir une complémentarité, que chacun doit rester à sa place. Et d'où, pathologisation justement, le conflit, c'est de la pathologie. Le conflit, c'est de la pathologie, et donc il forge le concept d'anomie. Pour parler précisément des pathologies sociales. Et donc, il y a une parenté étroite entre la tendance à la psychiatrisation qui est mise en œuvre, d'une certaine manière aujourd'hui, avec la façon dont Durkheim pensait le conflit. C'est déjà. Alors, ensuite, on a d'autres auteurs qu'on a oubliés entre-temps, qui ont encore accentué cette dimension. J'ai oublié le nom maintenant. Mémoire, un auteur postérieur à Durkheim dans l'entre-deux-guerres, qu'on a oublié. Mais la division du travail social, c'est un bouquin qui est assez. Ça mérite vraiment d'être lu attentivement. Il y a des passages qui sont ahurissants. Il y a des passages où il s'appuie sur Lebon, vous connaissez peut-être Lebon, le théoricien raciologue, où il explique que. Et Durkheim s'appuie dessus, que les femmes sont moins intelligentes que les hommes parce que le poids de leur cerveau est en moyenne plus faible. Oui, c'est chez Durkheim, alors que Durkheim essaye de penser pourtant le social contre le biologique. Et c'est vrai que cette tendance, elle est dominante, mais dans sa thèse, on a ce passage-là. Mais il faut dire aussi que ça, c'était dominant à l'époque. Oui ?
Je trouve que les outs, c'est une production de l'organisation, soi-disant, l'organisation exactement organique. Parce que dans l'organisation mécanique, il n'y avait pas de vote, c'était la société traditionnelle qui était inclue dans la famille.
Non, là, vous voulez faire l'opposition entre solidarité mécanique et solidarité organique. À mon sens, cette opposition est rigoureusement de la même nature que l'opposition chez Tönnies entre Gemeinschaft et Gesellschaft. La solidarité mécanique, ça renvoie en fait aux sociétés primitives, chez Durkheim, sociétés traditionnelles, et la solidarité organique aux sociétés modernes, avec une division du travail élaborée, mais quelque part, ça recouvre aussi la schématisation de Tönnies. C'est très proche. Des sociétés du passé où il y a... voilà. Mais en même temps, la question du conflit, qui ne pense pas justement dans les sociétés modernes, Durkheim, il est obligé de recourir à cette faiblesse quand même de la pensée, de considérer que c'est pathologique, le conflit. Il est incapable de prendre en compte les rapports sociaux. Pour ça, Halbach, c'est beaucoup plus intéressant. Il y a beaucoup de limites. Mais Halbach fait sa thèse sur la spéculation urbaine à Paris. Thèse qui n'a jamais été republiée. C'est assez incroyable. Moi, je l'ai lu parce qu'on a... Halbach s'est enseigné à Strasbourg pendant très longtemps, donc il y avait un exemplaire. Dans l'entre-deux-guerres, pendant pratiquement pas loin d'une quinzaine d'années. Simmel aussi a enseigné à Strasbourg, mais c'était avant-guerre, à l'époque allemande. Donc Halbach, sa thèse porte sur la spéculation foncière à Paris. Donc Halbach prend en compte les rapports de classe, certes de manière très euphémisée. Certes, il est quand même durkheimien d'abord, mais il prend en compte plein de choses. Et ensuite, il s'intéresse à classe ouvrière et il utilise les termes. Donc on a quelque chose de plus intéressant, à mon sens, chez Halbach que chez Durkheim, de ce point de vue. Ce qui est extraordinaire chez Durkheim, c'est qu'il n'applique pas lui-même ses préceptes méthodologiques qui ont une certaine force, tout de même, expliquer le social par le social, quand il s'appuie, par exemple, sur le bon pour baliver la moindre intelligence des femmes en raison du poids moindre, en moyenne, des cerveaux des parisiennes par rapport aux parisiens. C'est dans la divise de travail social. Hein.
Une dernière question.
Allez-y. C'est à propos du désintérêt collectif en sociologie, en tout cas, à propos du syndicalisme et de ce parlement. Peut-être qu'il y a 40 ans, 30 ans, voilà, il y avait, c'était un sujet assez central, dans les dernières régions. Et le fait qu'aujourd'hui, il y ait très peu de gens qui s'intéressent aux syndicats, aux organisations.
Et les sociologues?
Oui.
Non, il y en a.
Oui, je sais.
Il y en a même plus qu'on vous imaginez. Hein. Mais c'est quand même effarant de constater qu'il y a un quotidien en France
ou à peu près, qui rend compte des luttes sociales. C'est l'humanité, c'est le seul quotidien où on trouve des éléments. Je veux dire, penser de manière critique ce qu'on veut par ailleurs, mais c'est le seul qui en parle. L'humanité, le monde, il n'y a en général rien, il y a un entrefilé, il faut qu'il y ait une menace de faire sauter, je ne sais pas, des explosifs ou des produits qui peuvent exploser pour que ça devienne un grand titre. Non mais là, ensuite, il y a l'invisibilité médiatique, d'une façon générale, du monde populaire. Quand je parle du monde populaire, c'est le monde des ouvriers, des employés, c'est quand même pas loin de 60% de la population. Je veux dire, il faut quand même arrêter. C'est une partie de ce que j'appellerais la classe des travailleurs, la partie d'en bas, la moins bien lotie. Mais comment elle est représentée à la télé? D'abord individualisée à travers les jeux à la con, souvent avec un certain misérabilisme, les pseudo-animateurs se foutant de la gueule des gens, parce qu'ils se sentent mal à l'aise en plus, ils n'ont pas l'habitude d'être sous les caméras, bon, ils parlent mal, ou bien ils ne parlent pas assez mode, ou ils ne parlent pas assez bien. Donc vous voyez, et là il y a un vrai problème, il y a Vincent Boulet qui a fait un bon travail sur la représentation justement du monde populaire. Et alors pour ce qui est des travaux sur le syndicalisme et les mouvements sociaux, moi j'ai plutôt le sentiment inverse. Je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes sociologues, beaucoup de thèses en cours qui portent sur les mouvements sociaux, sur le syndicalisme, sur différents aspects. J'ai moi-même été dans des jurys de thèse récemment, alors c'est vrai que c'est toujours pas un livre d'une thèse absolument remarquable qui a été soutenue par quelqu'un qui avait plus de 50 ans, qui a un boulot par ailleurs, qui est conseiller d'orientation dans le secondaire, et qui lui-même, quand il était étudiant, faisait partie d'un comité de soutien à une lutte ouvrière dans une vallée des Vosges alsaciennes, qui concernait deux entreprises où il y a eu des licenciements massifs. L'une était une entreprise essentiellement qui embauchait des femmes, l'autre essentiellement des hommes. Et il faisait partie du comité de soutien, parce qu'il était un peu politisé. Sa mère était elle-même ouvrière dans l'une des entreprises. Et il prouve qu'il a repris des études quand il avait quarantaine bien entamée, qui a fait sociaux, et il a fait une thèse que je trouve absolument remarquable sur le devenir des licenciés, au masculin et au féminin, de ces deux usines, donc 350 personnes, donc un travail très classique, longitudinal, et vu les réseaux de relations, la faible dispersion des gens, vu où ça se passait, il a pu reconstituer le devenir de tout le monde, peut-être à une ou deux unités près, une ou deux personnes près. Et il a pu mettre en évidence des choses d'abord assez nuancées et complexes, mais quand même des tendances lourdes. Ces tendances lourdes, les hommes et les femmes qui ont été licenciés de ces deux usines, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Première tendance lourde, les hommes se sont mieux sortis que les femmes, de manière massive. Deuxième tendance lourde, les gens qui avaient des qualifications sont sortis beaucoup mieux que les gens qui n'en avaient pas. Troisième tendance lourde, le mariage et les enfants lestaient les femmes. Donc si elles étaient célibataires ou si elles n'avaient pas d'enfants, elles sont sorties mieux que si elles en avaient. Inversement pour les hommes, ceux qui étaient mariés et qui avaient des enfants sont mieux sortis que les autres. Enfin, des choses vraiment intéressantes. Une thèse vraiment remarquable. Et alors là, avec un matériau empirique lourd et un suivi longitudinal sur plus de 25 ans. Donc voilà, et là c'est ça porte quand même, mais ça porte aussi sur un mouvement social, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses sur les grèves, il y a beaucoup de choses intéressantes sur ce que sont devenues ces ouvrières, par exemple. Où est-ce qu'elles se retrouvent aujourd'hui, assistantes maternelles, à s'occuper de vieux, à bosser dans les maisons de retraite, à faire le sale boulot là-dedans, c'est la classe moyenne, ça. Non, mais je veux dire qu'on arrête les plaisanteries. Parce que quand on connaît le boulot qu'il y a à faire pour lever les gens matin et soir qui sont dépendants, qu'il faut les laver, etc., etc., d'ailleurs de plus en plus, notamment dans les grandes villes, en France, mais c'est vrai dans les autres pays européens, aux États-Unis aussi, qui fait ce boulot, toujours des femmes, maintenant c'est des femmes qui viennent du Sud. Alors dans les campagnes, ou dans les provinces, les femmes, c'est les anciennes ouvrières, parce qu'effectivement, il y en a beaucoup qui ont perdu le boulot.
Et ce qui est très intéressant dans les entretiens, c'est comment réagissent ces femmes par rapport à leur trajectoire. Elles avaient un boulot très dur, c'était dans le textile. Elles disaient tout, toutes dans les entretiens, c'était très dur, c'était bruyant, c'était dégueulasse, c'était sale, mais c'était quand même beaucoup mieux parce qu'on était ensemble. Très intéressant. On était ensemble. Et ce qui est dur pour ces femmes aujourd'hui, c'est d'être isolées. Soit elles gardent des mômes, elles sont toutes seules, elles gardent des mômes, elles sont sous-payées. C'est les assistantes maternelles, c'est les seules qui, réglementairement, n'ont pas le SMIC. Parce qu'aucune n'a le nombre d'enfants à garder en permanence qui peut lui permettre d'arriver au SMIC. Ou alors, elles font les boulots que j'ai indiqués et elles font comment ça s'appelle, portent un nom, les euphémismes, pour garder les vieux. Elle a domicile, voilà, c'est excellent film espagnol qui vient de sortir récemment de... Comment il s'appelle encore ? León. Fernando León. Fernando León, des... je ne sais plus trop comment. Il a fait Los Lunes al Sol, un film sur le chômage excellent. Il a fait un excellent film sur la prostitution, mais en France, il a été cassé parce qu'il n'est pas abolitionniste. Il ne donnait pas une vision complètement misérabiliste du monde, mais une vision compliquée, avec une dimension de domination, mais il n'y avait pas que ça. Ça c'était Princesas, et là il a fait un film génial, incroyable quand on y pense, au niveau du thème, d'une femme qui va garder un vieux qui est en très mauvais état et qui meurt. Et évidemment, la femme qui garde, c'est une étrangère, c'est une péruvienne, là, en l'occurrence, en Espagne. En Espagne, les immigrés, c'est d'abord les avant les Marocains, c'est les Latinos et les Roumains.
En Italie, en particulier en Italie, on les appelle les badantes.
Absolument.
Ces femmes,
badantes, absolument.
Ce sont des pays d'Est ou d'Amérique latine ou du Maroc.
Ou des Philippines. Ou des Philippines.
Philippines.
Oui, non, c'est
des pays du Golfe, beaucoup plus.
Dans les pays du Golfe, il y en a beaucoup plus, mais il y en a beaucoup en Italie, beaucoup plus qu'en France. Je me suis intéressé justement aux femmes de ménage et autres Philippines, gardiennes d'enfants, dans le monde privilégié, dominant, notamment les cadres internationaux qui savent qu'aujourd'hui, pour faire partie des dominants, il faut parler anglais. Donc on a, pour garder les enfants, un recrutement massif de Philippines qui sont scolarisées en anglais, qui parlent anglais, pour socialiser les enfants en anglais dès leur plus jeune âge et regarder ce qui se passe à l'université. Maintenant, il faudrait qu'on passe à l'anglais. Les postes sont publiés en anglais. En Suisse, c'est encore pire, en Allemagne aussi, la revue suisse de sociologie publie maintenant sur un numéro au maximum un ou deux articles en allemand ou en français, tout le reste en anglais. L'italien a disparu. En Allemagne, le nombre de cours qui sont entièrement en anglais. Ça m'est arrivé d'aller en Allemagne, je parle allemand. Hein. Normalement, dès que mon intervention en anglais, j'ai refusé. Non, faut arrêter. Faut arrêter.
Non, on demande des CV en français et en anglais.
Ben voilà, voilà. Non, mais vous voulez, cette question de langue aussi, elle est liée à ça. Mais précisément, là, c'est comme façon de le voir, il y a une thèse assez descriptive, on ne va pas assez loin, mais qui est quand même intéressante, souvent une chercheuse philippine. Là-dessus, elle a publié un article aussi dans les cahiers du genre sur le sujet, sur les Philippines donc, qui travaillent à l'extérieur. Il y a à peu près autant de Philippines, en parenthèse, qui travaillent à l'extérieur, mais ce n'est pas les mêmes pays. Et les Philippines, c'est beaucoup officiellement, il va y avoir 2,5 millions de femmes à l'extérieur. C'est pas rien. Hein. C'est pas rien. Aussi aux États-Unis. Alors évidemment, aux États-Unis, on a principalement des Latinos. En Espagne, on a principalement des Latinos, des pays de l'Est et des Marocains. Africains, après. Mais dans l'ordre, c'est intéressant aussi de voir des mouvements migratoires selon les pays. L'Espagne, ancien pays d'immigrants, qui est devenu un pays d'immigration. Les deux nationalités en tête, les Équatoriens et les Colombiens. Troisième nationalité d'immigrés en Espagne, les Roumains. Quatrième, les Espagnols. Non, les Marocains. Mais on ne le réalise pas assez. Portugal est devenu un pays d'immigration. Lors d'un voyage au Portugal, je tombe dans café, c'est très intéressant, discuter avec les gens dans les cafés.
Et donc, j'avais vu qu'il y avait un chantier d'autoroute entre Porto et Bragance, et c'était dans un café à Bragance. Donc, un café, boire un verre, on discute un peu, et je demande, mais le chantier, là, on va vous aller en autoroute bientôt. Et puis, tout de suite, le sujet, bah oui, mais chantier, il n'y a pas portugais qui travaille sur le chantier. Ah, je dis, mais qui travaille sur le chantier? Que des Ukrainiens. Mais bien entendu, c'était il y a quelques années. Non mais, ouais, la circulation internationale. Et aujourd'hui, la nationalité en tête au Portugal, c'est le Brésilien. Alors que le Brésil, c'était le lieu où beaucoup d'émigrants portugais sont partis. C'est très... C'est pour ça qu'il faut étudier. Alors, évidemment, le passé colonial explique beaucoup de choses. Au niveau des flux migratoires, donc, on sait comment ça fonctionne, les réseaux. Hein. Alors, là, on dévie. Hein.
Ben, merci beaucoup. Je sais qu'il y a encore une question, mais je vous invite. Il va falloir
qu'on...
Allez-y.
Je vais être chiant, c'est sur les
15
secondes
de
l'exposé qui me déplaise. Je dis je vais être chiant, c'est sur les 15 secondes de l'exposé qui me déplaise.
Très bien.
J'aime beaucoup ce que vous faites en sociologie, mais la transposition que vous faites du coup, de l'analyse sociologique à l'analyse économique, de la réalité économique actuellement, vous dites que la dégradation du partage capital-travail en faveur du capital, elle est la cause de la crise, d'accord. Et après vous dites, enfin vous avez vraiment 10 secondes dessus en disant c'est à cause des placements financiers, des flux financiers, etc. J'ai l'impression que vous ne parlez pas tellement, en fait vous parlez pas tellement de rapport de classe, enfin de leur rapport social de classe quand vous dites ça, parce que en fait, pour moi, la cause de la crise, elle est plus sur une question de justement de répartition de la richesse et du fait qu'il y a certes il y a une financiarisation du capital, mais il y a une surproduction qui entraîne avec la l'évolution de la répartition de la richesse qui entraîne du coup une baisse, enfin, une non-consommation et donc une perte de bénéfices de capital. En fait. Ce que je veux dire, c'est que votre analyse, elle est très... Sociologiquement, vous êtes dans une analyse qui est très critique du capitalisme, et l'analyse économique que vous faites, c'est une critique du capitalisme financier, alors qu'on peut très bien faire, on peut très bien marcher avec le capitalisme.
Je comprends parfaitement ce que vous venez de dire, et je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, et je me suis certainement mal exprimé. Je vais donc reprendre et être précis. Je suis d'accord avec vous pour dire que l'origine de la crise n'est pas financière, et qu'il faut au contraire expliquer d'où vient cette crise financière. Et ce que j'avais essayé de dire, mais j'ai peut-être été maladroit ou j'ai peut-être procédé par raccourci, ce que j'ai essayé de dire, c'est que précisément la modification de la répartition des richesses, qui a fait que certains se sont accaparés des richesses supplémentaires considérables, et que ces richesses considérables, en termes monétaires notamment, n'ont pas trouvé à s'investir parce que précisément, il n'y avait pas de possibilité d'investir, parce qu'on investit quand les choses sont potentiellement rentables. Et donc ces richesses supplémentaires sont allées où ? Ben, sont allées dans des placements spéculatifs, immobiliers par exemple, ou financiers, quelles que soient les formules par exemple, et que évidemment cette logique spéculative, elle a un temps. Les bulles financières immobilières éclatent à un moment donné. Mais l'origine, je la mets bien avant, c'est... Donc là, j'ai du mal à m'exprimer, ou alors j'étais dans un raccourci. Je suis même, sur le fond, plutôt d'accord avec la ligne que vous défendez. Je suis assez en désaccord avec les économistes qui se polarisent sur les questions financières, parce qu'à mon sens, ils oublient même, dans le monde réel, une chose importante, c'est qu'il n'y a pas d'un côté les financiers et de l'autre côté les capitalistes qui s'intéressent à produire des marchandises, c'est les mêmes. C'est les mêmes fondamentalement. D'autant plus que aussi bien les grandes firmes ont leur département financier qui s'occupe de faire des placements spéculatifs, que par ailleurs les banques contrôlent un certain nombre de groupes et d'entreprises qui fabriquent des marchandises. Donc c'est à mon avis faire fausse route que de vouloir séparer ces deux fractions du capital, pour le formuler de cette manière.
Merci beaucoup.
Je vais juste récupérer les bouquins, si vous voulez bien. Mais si vous êtes qui sont intéressés, je ramène qu'un exemplaire de chaque. Je peux les céder, même au prix auteur. Ça me permettra d'avoir un sac moins lourd. Ah. À prix auteur, vous enlevez...